Bonsoir, bonsoir. On va commencer l'émission par, bien sûr, le décryptage, j'adore ce mot, la journée de Ligue 1 qui s'est déroulée hier avant-hier, du viol monégasque à Nancy à la première victoire des Ch'tis boulonnais, en passant par le carton plein de PLMB. Voilà. J'aimerais bien qu'on commence par Saint-Étienne, qui a perdu à Toulouse, 3 buts à 1, après la défaite lors de la première journée à domicile contre Nice, 2-0. On a l'impression que Saint-Etienne, ça repart un peu comme l'année dernière au niveau du jeu, au niveau des résultats, surtout donc deux matchs, deux défaites. Qu'est-ce que vous en pensez de Saint-Etienne là? Saint-Etienne, est-ce qu'ils sont repartis là pour une année encore galère?
Ouais, ben Saint-Etienne, on les récupère entre guillemets comme on les a laissés. C'est-à-dire que voilà quoi, c'est toujours la même galère, toujours les mêmes problèmes, les mêmes blessures. Il y a 5 ou 6 joueurs qui sont blessés alors que la saison vient à peine de débuter. Alors est-ce qu'ils ont des médecins ou des vétérinaires, ou enfin on comprend pas trop ce qui se passe, parce que bon, avoir autant de blessés si tôt, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, en partant, si on se base par rapport au résultat de l'année dernière, ben on dit que en fait ils vont perdre à Toulouse quoi, il y a rien d'exceptionnel. Hein. Donc malheureusement pour eux, c'est assez particulier. En même temps, le recrutement n'est toujours pas terminé offensivement. C'est pour ça qu'ils ont aligné Rivière, le petit jeune. Hein. Donc là, Bobo devait venir, mais apparemment ça se complique. Donc là, on parle de Venegorov et Silink là. Bon, j'ai du mal à prononcer son nom, mais voilà. Vous voyez de qui je parle. Et plus, ils cherchent aussi un attaquant de côté. Donc là, moi, j'ai pas plus d'infos là-dessus. Mais voilà, à mon avis, voilà, Saint-Etienne, je pense pas qu'ils descendront malgré tout. Mais ils vont encore avoir une belle saison de merde, à mon avis, quoi. Un brin d'optimisme.
Moi, au contraire de toi, pardon Edouard, mais moi, au contraire de toi, je crois qu'ils vont descendre. Hein. Je vois vraiment pas d'issue de sortie pour eux. Sauf même s'ils recrutent un attaquant, hein, tu peux rien enlever au fait qu'ils ont personne pour lui donner des ballons. Payet, c'est pas un joueur qui va faire des passes décisives, c'est un joueur qui va percuter, se trouver dans l'axe pour peut-être frapper, peut-être marquer un but. Mais je vois vraiment pas qui. Enfin, pour moi, Landrin, c'est pas un joueur qui va donner des ballons. Matuidi, il est plus dans la récupération. Les latéraux ne savent pas centrer. je vois pas ce qu'ils vont faire. Enfin, pour moi, sauf s'ils recrutent vraiment 2-3 joueurs, mais et que ça soit des joueurs de qualité, quoi, je vois pas comment ils vont faire.
Et puis quoi qu'on dise, Gomis avait beau être décrié, ça restait quand même le meilleur joueur de leur équipe. Et là, ils l'ont vendu et il est toujours pas remplacé. Et vu comment c'est parti, il va être remplacé par un sombre joueur du championnat turc ou brésilien, et ça aura pas le même rendement, quoi. Surtout qu'il sera encore tout seul. Le seul vrai joueur qui reste à Saint-Etienne, c'est Ilan, et il est blessé, comme souvent. Donc là, que ce soit à chaque ligne, il y a aucun patron, que ce soit en défense, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque, il y a personne. C'est très faible. Et voilà, moi aussi je suis très pessimiste pour leur saison. Je les vois pas se relever. Après, y a Starsky Hutch au duo des présidents. Il y a Alain Perrin, entraîneur, mais bon. Je suis sûr que c'est un bon entraîneur, mais c'est pas vraiment un meneur d'hommes. Je pense pas que ce soit l'homme de la situation. Et ouais, je les vois jouer le maintien aussi. Voire être relégué.
Juste un truc sur le coup des deux présidents. Bah en fait on le répète à chaque fois ça, mais bon, dès que ça va mal on dit ah oui mais à Saint-Etienne il y a deux présidents, c'est ça qui fout le bordel. Mais quand les résultats suivent à peu près, on n'en parle pas.
Moi je suis d'accord, enfin.
C'est pas en retrait, donc je sais pas si c'est vraiment la cause.
Voilà. Moi je suis d'accord, je vois pas en quoi ça peut gêner avoir deux présidents. Enfin, en plus, d'après ce qu'on entend, c'est pas vraiment des gens qui s'aiment pas, ils s'aiment bien apparemment. Je sais pas, enfin. Ouais. Enfin bon, ils s'aiment bien, pas non plus, mais ça va, ils savent gérer un club ensemble. Et enfin voilà, je vois pas en quoi ça pourrait vraiment enfin casser tout.
Ce débat là, donc on est en train de parler de Saint-Etienne, est-ce que c'est parti pour un tour? Est-ce qu'ils vont encore jouer le maintien cette saison? Bah d'ailleurs, ce débat est présent chez nous sur le site vatefairefoot.com dans la rubrique le débat de la semaine. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, réagir et apporter votre touche au débat. Toi, Narpi, qu'est-ce que t'en penses de Saint-Etienne, vu on sait que t'es assez proche d'eux, t'habites pas loin, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, je les vois faire une saison comme la saison dernière. Ils se sont pas renforcés. Enfin, ils se sont pas renforcés au niveau de la balance départ-arrivée. Ils seront moins bons. Au milieu de terrain, les joueurs ne savent pas se placer. Enfin, comme on disait tout à l'heure en off, il n'y a pas de meneur de jeu. Le Machado devait prendre son rôle, bon bah il est parti de l'autre côté. Ça reste une équipe énigmatique. Faut voir qui va remplacer Gomis, va enfin prendre ses responsabilités et retrouver le niveau qu'il avait à Lille, enfin en tout cas les espoirs qu'on avait placés en lui. Je pense que les blessures, comme tu disais Mathieu, font beaucoup. C'est pas un club qui dès qu'il est dans une spirale négative a beaucoup de mal à s'en sortir. Je pense que Perrin va gicler, tout simplement, comme Ivan Hasek l'a fait, et comme Rousset l'a fait la saison dernière. C'est un entraîneur qui a beaucoup de caractère, malgré le fait qu'on le trouve assez apathique parfois. Et je pense que s'il a pas son attaquant, s'il a pas son remplaçant à Gomis, son remplaçant de Gomis, à mon avis, il va partir au clash avec Rousset, avec Payazzo et Romeyer. Et ça va mal finir, mais de toute façon c'était prévisible. Quand on voit le mercato qu'ils ont fait, s'attendre à des merveilles. Les supporters stéphanois sont des éternels optimistes et certains et pensaient que la saison dernière n'était qu'un accident. On l'a vu avec le PSG, quand tu changes pas énormément l'équipe alors qu'elle a fini, elle s'est sauvée à la dernière journée, bah il faut l'électrochoc, sinon tu refais la même saison. Et là, à mon avis, je suis pas sûr qu'ils descendent en Ligue 2, à voir quand les blessés reviendront, mais en tout cas c'est très mal barré et ils sont relégables et c'est complètement logique vu le niveau de jeu qu'ils affichent. Leur défense c'est très très faible. Bayal, Sal et Endo ce week-end ont fait un match très très moyen. Donc je les vois pas passer au-dessus de la 15e place. Ils vont peut-être se sauver comme la saison dernière à la dernière journée. Parce que c'est Saint-Étienne et que malgré tout, malgré le fait que ils fassent des erreurs, alors c'est pas un complot, mais forcément on aura plus tendance à vouloir sauver Saint-Étienne comme ça l'a été avec le PSG en 2008, ce qui est tout à fait logique. Et ils vont sûrement se sauver, mais il va falloir changer quelque chose, que ce soit au niveau de l'entraîneur ou au niveau des présidents, mais c'est surtout au niveau des joueurs que le bas blesse. On l'a vu ce week-end, ils sont pas en vie, ils ont je vais même pas parler d'amour du fait, mais ils démontrent aucune envie, ne serait-ce que par orgueil personnel. C'est assez pitoyable en ce moment le niveau de Saint-Étienne. On verra bien, pour l'instant ils sont relégables et la saison commence comme elle a été l'année dernière.
Ouais, surtout leur défense est vraiment sur les buts qu'elle a pris contre Toulouse et encore pire contre Nice. Moi, celui qui marque le plus c'est le but qu'a marqué Rémy. C'est contre Nice il y a deux semaines qui est vraiment un but mais tu peux pas enfin tu dis ouais, comment c'est la défense. Ouais, c'est clair. Et puis même pas ça. Déjà la passe ratée, ils offrent le ballon carrément au Niçois. Et ensuite t'as Rémy qui balade mes trois défenses sans marche quoi. Le gars il court droit et il s'arrête et tout à coup il frappe et il marque. Alors qu'il y a trois défenseurs autour de lui plus un gardien. Enfin, je comprends rien moi. Un but comme ça c'est un vrai signe d'une défense nulle.
Impuissante. Oui c'est vrai. Mais comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Narpi. Surtout que l'année dernière, on sait la saison qu'ils ont vécue, on a l'impression qu'il n'y a vraiment rien qui a été changé, que ça soit au niveau de l'effectif, ils ont même perdu Gomis, Machado, il n'y a pas eu de gros, pas vraiment un recrutement flamboyant, il y a toujours les mêmes personnes au niveau de la direction, au niveau des présidents, au niveau de l'entraîneur, donc c'est toujours Alain Perrin. On a vraiment l'impression qu'ils ont rien fait, ils ont rien essayé pour changer le truc. Donc c'est ça. Moi aussi je le vois également jouer le maintien une nouvelle année de plus, mais faudra faire attention hein. comme tu l'as dit, Alain Perrin, si ça continue, il faudra bien qu'un jour il se fasse virer, peut-être au cours de la saison. Mais voilà, quoi, c'est chaud pour cette équipe, quoi, et va falloir faire très attention dans le futur.
Ouais, vous parlez de virer Perrin, mais est-ce que Saint-Etienne peut se le permettre, quoi? C'est ça aussi, parce que l'année dernière, on disait ça. Voilà, au niveau des finances, parce qu'il va falloir payer, même s'il ne reste qu'un an de contrat, je ne sais pas exactement. Mais il faudra quand même arriver à le payer, quoi. Je ne sais pas s'ils peuvent se le permettre. Mais au-delà de ça, bon, moi, je pense qu'ils vont passer une année galère, comme on dit, un peu, un truc un petit peu impensif, mais voilà, une année galère. Mais je pense pas qu'ils descendront, parce que malgré tout, il y a quand même des joueurs dans cette équipe, faut pas abuser, quoi. Après, vous dites qu'il n'y a pas eu de recrues majeures, c'est vrai, mais par exemple, ils ont recruté Gelson Fernandez, l'international suisse. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est un joueur plus que correct à mon avis. Et avec Matuidi, ça peut faire une belle doublette au milieu. Ensuite, comme on l'a dit, il y a Ilan, plus l'attaquant qu'ils vont recruter, Payet, Endo, on aime ou on n'aime pas, mais bon, je pense que bien cadré, il peut faire quelque chose en défense. Bayalsa, il a été bon aussi en défense l'année dernière, même si, enfin, il a fait quelques matchs pas trop mal. Donc bon, peut-être que si Perrin arrive à cadrer tout ça, je pense que voilà, ils se maintiendront. Mais après, c'est est-ce que le groupe est toujours en phase avec l'entraîneur et est-ce que le discours passe toujours, quoi. C'est plus ça qui m'inquiète qu'autre chose, parce que bon, les joueurs, ils les ont. Simplement, ce qui leur manque, c'est un milieu offensif gauche, je pense. Et voilà, sinon, et un meneur de jeu à la limite, ou voilà, mais il y a quand même quelques joueurs qui sont pas trop mauvais, donc je pense qu'ils se maintiendront quand même.
Mais oui, tu l'as dit, peut-être ils se maintiendront, et t'as dit oui, Gerson Fernandez est arrivé, mais faudrait savoir les objectifs de Saint-Etienne. Est-ce que c'est de faire un petit peu mieux que l'année dernière, voire la même chose, se maintenir, ou si c'est de revenir au premier plan et accéder à l'Europe comme ils l'ont fait il y a 2 ans, parce que là,
non, mais ça...
recrutement, ça c'est pas un recrutement où tu vois qu'ils veulent améliorer les choses, tu vois, c'est, on se contente de... Oui, voilà, tu vois, c'est après qui, je pense, ils peuvent se maintenir. Ils ont largement l'effectif pour. Hein. Il y a des équipes largement plus faibles qu'eux. Mais est-ce qu'ils ont de bons objectifs, quoi, à Saint-Etienne? Est-ce qu'ils ne se sous-estiment pas un peu trop?
Ben, je sais pas, mais moi, vu la saison dernière qu'ils ont fait, ils sont maintenus. Donc pour moi, à mon avis, ils jouent pas l'Europe, quoi. Il n'y a pas eu d'argent investi, il n'y a rien eu. Donc voilà, s'ils font entre 6 et 10, à mon avis, ils seront largement contents, largement satisfaits. Et si peut-être qu'ils arrivent à faire un coup en coupe, et voilà, ce sera, à mon avis, les objectifs, c'est plus ça que l'Europe ou le championnat carrément, quoi.
Ouais, voilà.
Se sous-estimer un peu. Enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais vu une équipe qui a fait une mauvaise saison parce qu'ils se sous-estiment. Enfin, moi, personnellement, leur objectif, ça devrait pas... Enfin, de toute manière, leur objectif, c'est clairement pas de jouer le maintien, parce que je pense pas qu'en début de saison, ils se sont dit « Ouais, on va jouer le maintien. » Mais, enfin, voilà, moi, je pense pas que l'objectif est une raison ou pas de faire une saison nulle, et c'est ce qui...
Non, ah, tu m'as mal compris. Je dis pas que le fait que les dirigeants stéphanois n'aient pas un véritable objectif va faire que Saint-Etienne fasse une mauvaise saison. Mais je dis que là, les Saint-Etienne n'a pas assez bien recruté. Et quand on voit ce recrutement, on se dit que Saint-Etienne se contente de ça et va pas essayer de faire plus qu'il pouvait faire, quoi. C'est ça que je voulais dire plutôt.
Ah bah, on est d'accord.
Je voulais pas dire que le fait que Saint-Etienne n'ait pas d'objectif, ça influence sur maintenant le déroulement de la saison. Et toi, tu les vois comme un peu comme tout le monde jouer le maintien, quoi.
Bah, je pense que, sauf surprise, enfin pour moi, enfin et c'est même pas, enfin ouais, moi je pense qu'ils vont jouer le maintien. C'est même pas parce qu'ils sont mauvais, comme on l'a dit, il y a des joueurs de qualité. Mais dans la spirale où ils sont, c'est vraiment dur de les voir ailleurs que jouer le maintien.
Je sais pas contre qui joue au prochain match. Je sais pas si vous savez, donc si jamais il y a un Stéphanois qui est là, qui peut nous le dire. Et on a une réaction de Matt qui nous demande si Nancy est passé déjà. Non, Nancy, on n'a pas encore parlé de Nancy, c'est, ça sera après, t'inquiète pas. Et on a une réaction d'ailleurs de Lil White qui nous dit: il leur faut un buteur à la SSE, c'est vrai. Oui, bah d'ailleurs, ce buteur, on en a parlé un peu. Ça serait soit Bobo, soit Sogo, c'est ça?
D'accord. Ouais, Sanogo, apparemment, c'était un petit peu une fausse piste, quoi. Et ils ont le dossier sous le coude, et au cas où vraiment ils trouvent personne, ils le prendront, quoi. Mais là, apparemment, on parle beaucoup de Venegor, Facilink. Bon, après, il y avait d'autres rumeurs comme Guillermé et Kléber, les deux Brésiliens. Et voilà, pour l'instant, moi, je n'en sais pas plus personnellement.
Ouais, il y a beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs, mais pas vraiment de choses concrètes. Alors, on me souffle dans l'oreille que Saint-Étienne joue contre Boulogne à domicile pour le prochain match. Voilà. Donc, pour les intéressés, vous pouvez aller jeter vos places à la billetterie ou sur Ticketnet ou alors dans les magasins Carrefour ou Virgin Megastore. Voilà. Donc voilà, c'est bon, pour ça. Le prochain. Voilà, si vous êtes intéressé. D'ailleurs, l'écho est parti. J'ai bien fait de faire ma petite pub. Donc, Saint-Etienne, prochain match à domicile contre Boulogne. Peut-être l'occasion de se rassurer.
Bah, on espère pour eux.
À voir. Bah oui, ça serait mieux.
C'est l'occasion ou jamais, là,
quoi. C'est clair. Et donc, bah voilà, merci messieurs, pour ce petit passage sur Saint-Etienne. Donc, voilà. Il y a Edouard, oui, tu vas cramer ton deuxième compète, d'accord, oui. Alors, on peut passer au deuxième sujet, Lyon. On va pouvoir parler de Lyon, Lyon d'attaque, oui. En fait, c'est un petit jeu de mots parce que, Lyon, finalement, on voit que ça forme une belle attaque avec Gomis et Lisandro qui s'entendent bien. On avait peur pour Gomis qui était sur une saison assez moyenne à Saint-Etienne, mais finalement, peut-être qu'on retrouve le Gomis de 2008. Voilà, donc la petite intro. Vas-y, Narpi.
C'est surtout l'évolution remarquable dans le jeu de Puel avec le placement de Kallström à côté de Makoun. Même s'il n'a pas fait un très grand match, loin de là, ça montre que Puel a compris que les deux milieux défensifs, les deux récupérateurs, c'était pas possible, ça a coupé l'équipe en deux. Là, on a vraiment vu une équipe de Lyon dominatrice, même si en face c'était que Valenciennes avec Samassa en pointe, donc fallait pas s'attendre non plus à des merveilles, mais on a vraiment vu une circulation de balles intéressante, un Lisandro exceptionnel, même s'il a pas marqué, il a été vraiment énorme, il était partout. Donc je pense que là, Lyon, on retrouve le Lyon assez autoritaire, strict, où il se laisse pas faire. Donc, contrairement à ce qu'on avait vu au Mans ou la saison dernière, et là, je pense que j'ai beaucoup d'espoir pour Lyon, surtout que Puel n'hésite pas à évoluer dans son jeu. Donc, Gomis a fait un bon match. Il a eu quelques occasions, il était disponible, il marque un très beau but. Bastos a un peu permuté, il était un peu partout, il naviguait entre le côté gauche et le côté droit, il permutait avec Govou, ce qui a pas mal déstabilisé la défense valenciennoise. Donc je pense que là, on retrouve le vrai Lyon, et le Lyon qui va sûrement faire mal. Là, on pourra voir l'OL se battre pour le titre jusqu'au bout, je le pense, sincèrement. En attendant de voir ce que va faire la défense, parce que là ils étaient pas non plus très rassurants. Ils se sont pris, ils ont eu quelques frayeurs. Lloris a fait le travail, mais faut surtout arrêter avec Bonnemer en défense centrale. Après la paire avec Chris a été plutôt pas mal. Sissoko s'est bien repris, offensivement il était assez présent. Réveillère a fait un match correct. En attendant de voir François Clair à l'œuvre. Et le retour de Toulalan au milieu, je pense que Toulalan est vraiment meilleur que Makoun dans le rôle de récupérateur. Et j'ai vraiment été agréablement surpris par l'équipe de Lyon. Je m'attendais encore à un match assez ennuyeux comme la saison dernière, ils avaient fait contre Valenciennes où ils avaient fait 0-0, je crois. Là, on retrouve un Lyon qui fait bien circuler le ballon, qui a des occasions. Lisandro manque un peu de réussite, mais ça va venir au fil des matchs. Je pense que là, Lyon est revenu et va faire très mal cette saison. On verra comment ils vont se comporter dans les confrontations directes avec Bordeaux et Marseille. Je suis plutôt optimiste par rapport à ce match, même s'il n'y a que 1-0 finalement.
D'accord.
Ouais, pour revenir à ce que tu dis sur comme quoi Puel aurait eu une révélation, je dis ça en rigolant, en alignant Kallström à côté de Makoun. Mais est-ce que tu penses que Puel aurait fait ça si Toulalan n'avait pas joué 90 minutes cette semaine en EDF?
Je sais pas. Maintenant, il a mis Kallström, il aurait pu mettre quelqu'un d'autre, il aurait pu mettre Bodmer, mais bon, il était en défense centrale. Je pense, malgré tout, comme tu le dis, que si Toulalan n'avait pas joué en équipe de France, il aurait gardé ce milieu de terrain avec deux récupérateurs purs. Maintenant, il a remarqué ce week-end que son équipe se comportait beaucoup mieux au niveau offensif quand Toulalan et Makoun n'étaient pas l'un à côté de l'autre. Maintenant, on sait que Makoun, c'est son fils spirituel. Et qu'il le fera jamais bouger. Et on sait que Toulalan est indispensable dans l'équipe lyonnaise et que ce serait un crime de lèse-majesté de laisser Toulalan sur le banc. Donc j'ai quand même une petite appréhension par rapport au match du week-end prochain où il va peut-être refaire ce bon vieux de défensif. Maintenant, il a déjà évolué dans le fait de mettre deux attaquants, de passer en 4-4-2. Donc ça c'est déjà très bien. Tout le monde est à son poste. Même si Govou n'a pas fait un très bon match, il faut le dire. Il reste quand même le patron. Et oui, c'est sûr que on verra le week-end prochain si Toulalan et Makoun seront alignés l'un à côté de l'autre. Mais je pense malgré tout qu'il vient de se rendre compte que mettre un relayeur et un récupérateur l'un à côté de l'autre dans son 4-4-2, c'était pas une si mauvaise idée.
J'espère parce que j'aime beaucoup Kallström aussi. Pardon, désolé.
Non, et tu penses vraiment pas que Makoun va sortir de l'équipe au fur et à mesure?
Bah, à part une blessure ou vraiment des matchs pitoyables, ce qui a été quand même un peu le cas, ne serait-ce que lors des matchs amicaux de pré-saison. Mais enfin voilà, d'une part, il a coûté 15 millions. Et en plus, ça a été la première recrue qu'il a voulu Puel. C'est vraiment le joueur qu'il a aimé à Lille et qui va continuer à aimer à Lyon. Donc franchement, je suis pas dans la tête de Puel. Moi personnellement, Makoun, je le mettrais pas sur le terrain. Mais dans sa tête, Makoun, c'est comme Valbuena ou Koné avec Guéret. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit attachement et c'est peut-être pour lui aussi un repère sur le terrain. C'est-à-dire que quand il a Makoun sur le terrain, c'est aussi pour démontrer que c'est quand même sa patte et que c'est son joueur. Et il espère vraiment, je pense, que Makoun fasse un bon match. Mais à chaque fois, c'est un gâchis, quoi. Mais franchement, si je me mettais à sa place, moi je l'enlèverais, Makoun. Mais à mon avis, Puel ne changera pas, n'enlèvera pas Makoun du 11 titulaire.
Moi je vois deux solutions, enfin moi je vois deux solutions, bah même trois. Je vois Puel établir une espèce de turnover, enfin une espèce de turnover sur le long terme, c'est-à-dire que il va changer de temps en temps Toulalan et Makoun et que les deux pourront jouer. Enfin pas peut-être Toulalan, il jouera sûrement plus de matchs que Makoun, mais je vois bien ça. Ensuite, je vois un changement de tactique au niveau 4-4-2. Je vois qu'il placerait Kallström plus sur un côté, histoire de garder les deux relayeurs, ce qui nuirait à l'équipe totalement. Et sinon, je vois un truc sur le long terme, c'est-à-dire qu'il pense déjà à la vente d'un des deux joueurs et qu'il établira un relayeur, enfin que ça soit Kallström, que ça soit Ederson, que ça soit Bodmer, que ça soit qui tu veux, mais moi je vois vraiment pas Puel garder deux milieux défensifs, surtout avec Ali Sissoko et qui monte pas assez, qui aide pas beaucoup, et à droite ça suffit pas non plus, donc je vois vraiment mal qui garde sur deux relayeurs, milieux défensifs. Et en plus, il a une pression énorme des supporters lyonnais. Je pense que Dolas maintenant, parce que il sait qu'il doit avoir des résultats, et je pense qu'il commence à comprendre qu'avec deux milieux défensifs, il les aura pas. Donc pour moi, je comprends son attachement à Makoun, mais je pense vraiment pas qu'il va le mettre indispensable à partir de maintenant, parce qu'il va sauver ses fesses avant tout. Et je pense que si Lyon ne continue pas sur cette spirale positive, Et vu la fragilité à cause de l'année dernière, s'il perd un match, deux matchs et que ça continue pas comme ça, enfin que ça continue pas bien, je sais pas, je le vois vraiment mal pas mettre un relayeur.
Bah donc toi tu vois plutôt Puel changer de philosophie de jeu, donc retenter encore une fois et continuer dans cette tactique.
Franchement, c'est pas retenter puisque c'est que un joueur un joueur offensif de plus, tu veux, enfin là c'est pas toute l'équipe qui chamboule, c'est juste
non mais c'est quand même toute sa philosophie de jeu qui change, parce que Puel c'est pas quelqu'un qui est connu pour son sens de l'offensive.
Ouais, mais ajouter un relayeur, c'est pas.
Si, parce qu'il l'a jamais fait l'année dernière. Il l'a jamais fait l'année dernière, alors qu'il a eu toute l'année pour faire.
Mais ça, c'est. Je comprends complètement, mais ça veut pas dire que c'est un changement carrément.
Pour lui, si.
Enfin, offensif. Et je crois vraiment pas que pour lui, si. Je crois juste qu'il. Pourquoi pas dans sa tête, il avait peut-être pas les joueurs pour le faire. Maintenant, est-ce qu'il voit avec Gomis et Lisandro qu'il peut le faire? Oui, moi, je pense. Je pense que ce sont deux joueurs complémentaires. Je pense qu'il avait un peu peur du 4-4-2. Maintenant, je pense qu'il le mettra.
D'accord. Je suis assez d'accord avec Mathieu. Je pense que c'est surtout parce que Toulanan a joué 90 minutes trois jours avant. Mais peut-être qu'il retentera cette expérience, mais je le vois pas lâcher Makoun ou Toulanan, quoi. Parce que Makoun, c'est. Je sais pas s'il l'a reconnu publiquement, mais on le sait depuis qu'il est arrivé à Lyon, c'est un peu son chouchou. Et là, mettre Toulalan sur le banc, je sais pas comment il fera. Je le vois pas vraiment changer à ce niveau-là. Ouais. Personnellement. Edouard, on t'a pas entendu. Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que, comme vous l'avez dit, Makoun, il est dans les petits papiers de Puel. Et pour lui, je pense que mettre Makoun sur le banc au profit d'un 8, ce serait mettre de côté un peu sa fierté, parce que c'est l'équivalent de dire que le recrutement de Makoun, c'était un peu un échec. Et je sais pas si Puel est prêt à faire cette concession, même si pour eux, s'il raisonne pour le bien de l'OL, il devrait faire ça, mais faut voir s'il va mettre sa fierté de côté et mettre Makoun sur le banc au profit de Kallström ou Ederson et compagnie.
D'accord. Et donc voilà, on a bien parlé de Lyon globalement, on a donné les avis et on peut passer à un autre sujet, on va parler des ch'tis un peu. On va parler des ch'tis. Valenciennes a perdu, mais Lens a gagné contre Auxerre à domicile. Et Boulogne a battu les Grenoblois de Buzyn au grand regret de Narpi. Voilà.
Oui, au grand regret.
Ouais, on va commencer par Boulogne, tu vois, vu que, t'es supporter de Grenoble et Grenoble a joué contre Boulogne. Qu'est-ce que t'en penses de Boulogne? Est-ce que c'est une petite euphorie ou ils peuvent vraiment dans cette optique se maintenir en Ligue 1?
Boulogne a très bien joué en première mi-temps. Ils ont pris le jeu à leur compte. Ils ont accéléré. Ils ont eu des occasions. Thiel en a manqué deux. Enfin, on a manqué de belles parades de Viviani. Donc là, on voit un tout autre visage de ce qu'on avait vu à Rennes. Où ils étaient à l'extérieur, c'était le premier match, donc ils avaient pas, ils étaient encore sous le choc de la Ligue 1. Maintenant, ils sont quand même tombés sur une équipe de Grenoble très faible, une équipe de Grenoble qui a un tout autre visage de ce qu'on avait vu la saison dernière. Donc à voir contre une équipe un peu plus solide, un peu plus expérimentée. Je pense malgré tout que s'ils font le plein à domicile comme Valenciennes l'a fait lors des deux dernières saisons, ils pourront se sauver. Je pense que avec les aléas de la saison, avec les blessures, les baisses de forme, j'ai du mal à les voir se maintenir. C'est sûr que quand ils ont joué contre nous, ils ont tout de suite mis de l'impact physique, ils se sont tout de suite imposés, on les a peut-être pris un peu de haut. ils ont vraiment joué le coup très très bien comme une équipe qui joue en Coupe de France contre un gros et qui a pas envie de se faire marcher dessus, qui se fait respecter. S'ils font ça toute la saison, je pense qu'ils pourront se maintenir. Thiel est en forme, Thiel a mis deux très beaux buts, vraiment deux buts de renard, de vrais buteurs un peu à la Savinan. On verra pour l'instant. De ce que j'ai vu contre Rennes, je les voyais très facilement dernier avec ce qu'ils avaient démontré. Ce que j'ai vu contre Grenoble, même si Grenoble a fait un très 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 mauvais match, je les vois un peu mieux. Faudra voir un peu au niveau de la défense parce qu'ils ont pas mal paniqué quand Grenoble est revenu et quand Grenoble a un peu poussé sur la fin. Ils ont fait quelques erreurs individuelles, quelques erreurs de marquage, notamment sur les coups de pied arrêtés. Mais ça reste une équipe plutôt solide pour ce qu'elle est en fait finalement au niveau du budget et au niveau de l'attente qu'on a par rapport à eux. À voir, à confirmer la semaine prochaine à Saint-Étienne. Ils peuvent faire un bon coup à Saint-Étienne, hein, comme Grenoble avait fait la saison dernière. Saint-Étienne est dans le trou, pourquoi pas les enfoncer encore plus et prendre un capital confiance très très important en début de saison.
Concernant Boulogne, moi je sais pas, je pense que c'est une petite euphorie, ils vont comme tu l'as dit, un esprit de petite équipe de Coupe de France. Et je sais pas s'ils sont capables de continuer sur cette lancée tout au long de l'année, vu qu'on en a parlé un peu la semaine dernière avec Vivien, et il a fait l'avoué, l'effectif est un peu trop faible. Et moi je les vois pas. Faire quelques coups comme ça, pourquoi pas, dans l'année, mais je les vois pas tenir comme ça toute l'année. Il faut bien qu'ils gagnent une fois, hein. Ça sera peut-être la seule fois, on sait pas. Voilà. Toi, Mathieu, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, franchement, pas grand-chose. C'est une équipe que je connais pas trop. Les gars, ils se sont arrachés. Apparemment, Grenoble a failli marquer en fin de match. Donc bon, ils se sont arrachés au mental, à l'envie, ils ont réussi à gagner. Mais bon, moi, voilà, je sais pas sur une saison si ça va marcher, quoi. En plus, c'est impossible de dire à l'avance maintenant, oui, Grenoble va se maintenir ou pas. Ben, c'est pareil pour toutes les équipes, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais, donc bon, je sais pas trop, quoi. En plus, Grenoble est peut-être arrivé là-bas avec un petit peu de crainte, ou je sais pas, peut-être qu'ils étaient un petit peu dans le trou, je sais pas, mais bon, voilà, Boulogne a gagné, bravo à eux, voilà, mais je pense que ça va être compliqué pour eux tout le long, quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'ils prennent un maximum de points à domicile, mais bon, pour moi, ils ont un effectif vraiment trop limité. Je sais pas, c'est vraiment un effectif de Ligue 1. Donc bon, voilà, quoi.
Mais en parlant, donc, il y a deux équipes ch'ti qui ont gagné hier et avant-hier. Lens a battu Auxerre 2-0. Lens, c'est une belle petite équipe avec notamment Eduardo en pointe, Milo Vanovic, leur numéro 10 qui a fait un excellent match, Boukari. Donc, ils ont une belle petite équipe, Lens, et moi, je les vois bien cette saison. Ils abordent bien cette nouvelle année. Allô? Oui.
Ouais, on t'entend, vas-y.
Oui, parce que c'est un peu casse-couille, ça, désolé, mais bon. Voilà. Donc, voilà. Et donc, Lens, moi, je les sens bien. Parce que, après, il y a certaines personnes qui diront que, normalement, Lens joue le maintien, et c'est pas forcément bien qu'une équipe pratique le beau jeu quand justement, elle joue le maintien. Mais moi, je les vois un peu plus haut, Lens. Surtout avec ce bel effectif. Je sais pas ce que t'en penses, Mathieu.
Ouais, bon, on va pas s'enflammer non plus, quoi. Ils étaient obligés de se rattraper par rapport au match de la semaine dernière. Non, mais c'est vrai, quoi. J'ai un match à domicile, sur ma guichet fermé. Bon, en plus, ils rencontrent Auxerre, bon, début de saison, moyen plus, on va dire. Ils ont pas d'attaquant. C'est surtout ça, quoi. Donc, voilà, 2-0, un beau match. Boukari a mis un très beau but. Parce que, par exemple, quand tu vois le premier but de Lens, je veux dire, tout le monde reprend le ballon de la tête. Les Auxerre, ouais, ils arrivent pas à se dégager. Enfin, bon... C'est un peu un but à l'arrache, quoi. Mais bon, Lens, ils sont appliqués, ils ont fait les choses qu'il fallait. Mais faut avouer qu'Auxerre en face, c'était pas trop ça, quoi. Donc bon, c'est un bon résultat, tant mieux pour eux, mais c'est bon, on s'enflamme pas non plus, quoi.
Ouais, non, mais je veux dire, même dans le jeu, moi je vais s'en serein. Moi je suis serein pour eux. Voilà. Et toi, Boulogne et Lan, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, Lens, au début de saison, j'étais très optimiste par rapport à cette équipe. Je les avais trouvés pas trop mal contre Bordeaux, un poil trop offensif, donc forcément face à Bordeaux, ça fait mal. Ils ont bien maîtrisé le match ce week-end face à une équipe d'Auxerre, il faut le dire, assez faible, sans Kallenberg qui est parti, sans Yellen qui est blessé, donc forcément il y a tout de suite un écart de niveau entre ce qu'on avait vu la saison dernière, la fin de saison dernière d'Auxerre et ce qu'on voit en début de saison. Maintenant, je pense que Lens va se maintenir. Est-ce qu'ils iront plus haut? Pourquoi pas. Pour l'instant, ils maîtrisent bien. Ils ont fait un très bon match. J'attends de voir Eduardo un peu plus en vue, qui marque plus de buts, parce qu'on avait vu lors des matchs amicaux qu'il a été vraiment plutôt bon. Après, on verra. Je pense que si Dindane s'en va derrière, ils pourront recruter un dernier joueur, je sais pas si c'est un attaquant ou un milieu, ou même un défenseur, parce que le défenseur apparemment ça a l'air d'être leur point faible. On verra, ça va libérer un peu la masse salariale, parce que Dindane pompe beaucoup d'argent. Pour l'instant, ils sont plutôt pas mal. Ils développent un bon jeu, ils sont assez efficaces. Même si le premier but de Monet Paquet est un peu un gros cafouillage dans la défense, et où il y a une succession de têtes, et il arrive quand même à s'imposer dans la surface et marquer. Le deuxième but, bon, apparemment les Auxerrois ont un peu gueulé parce que Angebar était blessé sur l'action, mais le but de Boukari est quand même très beau. Il démontre une nouvelle fois qu'il a énormément de talent et que ce sera peut-être le meilleur joueur cette saison à Lens. Je pense que ils vont se maintenir. Ça, c'est pour moi, c'est sûr, c'est sûr.
Ils vont se maintenir. D'accord avec moi.
Ah ouais, ils sont beaucoup. Moi, je les trouve meilleurs que Valenciennes, Boulogne, Grenoble ou même Auxerre pour l'instant. Même ouais, Le Mans qui a eu du mal au Parc des Princes. Donc, je pense que après, est-ce qu'ils iront un peu plus loin? Est-ce qu'ils auront un peu plus d'ambition? Faudra voir aussi en interne si Valem est confirmé, parce qu'on a vu dernièrement quand ils étaient en Ligue 1 que Papin a eu pas mal de problèmes, que Giroud a foutu la merde. Là, ça a l'air de se stabiliser en interne. Donc l'environnement est stable, l'équipe marche plutôt bien, ils sont dans une spirale positive, ils vont sûrement atteindre au moins, je pense, la 12e place. Alors, je vais être un peu trop optimiste, mais on verra. Faire un bon coup en coupe, pourquoi pas. On verra. Je pense que malgré tout, ils ont quand même quelques faiblesses en défense. Il faudra corriger ça. Mais je suis plutôt optimiste pour cette équipe de Lens.
Désolé Mathieu, mais c'est Auxerre et pas Auxerre, me rappelle Rémi.
Ah ok, désolé.
Voilà.
Ouais. Non, c'est... ouais, juste bon, moi je pense qu'ils vont logiquement ils vont se maintenir, même si j'ai un petit doute, mais je pense que ça va passer. Mais tu disais qu'en interne ça allait, ben justement pas tant que ça, parce qu'apparemment avec Kuperli il y a eu des gros problèmes cette semaine. Lui, soi-disant l'équipe avait sorti un papier comme quoi il allait démissionner. Ensuite finalement non, il a été confirmé. Oalem dans son communiqué n'a strictement rien dit, il a simplement dit qu'il voulait travailler avec Kuperli, mais il n'a pas dit qu'il allait rester ou qu'il y avait des problèmes ou quoi. Donc apparemment au sein du club il y a des tops, un peu comme la fameuse top du PSG, parce que tout le monde parle un petit peu aux journalistes, on sait pas trop ce qui se passe, donc en interne c'est un peu flou. Et sinon, juste pour revenir sur les transferts, tu parlais de Dindane, c'est vrai, il va sûrement partir, et apparemment il cherche un côté gauche et un 8. Donc on parle de Souma d'ailleurs, qui était dans les travées du stade, je crois, avec des belles lunettes de soleil. Et aussi on parle du prêt de Mounier. Donc voilà, apparemment il y a des bonnes relations entre Martel et Aulas, donc Mounier risque de partir en prêt à Lens. Donc voilà.
D'accord. D'ailleurs Souma, en parlant de Souma, il y a aussi quelques sources qui annonceraient un possible départ au Paris Saint-Germain.
Ouais, mais il est annoncé partout. Au départ, c'était Marseille, ensuite Lyon, Paris, voilà.
Ah, mais, Lens, non mais sauf que là, c'est enfin voilà, tu me comprends.
Ouais,
d'ailleurs, c'est une source sérieuse.
D'ailleurs, oui, vas-y. Des infos, CNOT/VTFF, il y a Souma, il serait bien en contact avec Paris. Et apparemment, les conditions du joueur sont déjà faites, et puis il manque plus que Plus que voir si Roten va partir ou pas, mais apparemment le joueur il serait bien pour venir à Paris.
C'est en cas de, en fait c'est la venue de Roten qui bloque quoi.
Ouais, en fait c'est le départ de Roten apparemment qui, enfin, et même s'il part, enfin juste qu'il part quoi, juste qu'il dégage son salaire, je pense que même s'il part pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 millions d'euros, je sais pas combien il va partir,
c'est pas, ouais, c'est pas ça le problème.
Ouais, ouais, non, mais ça c'est sûr, je pense pas qu'il partira pour 3. Mais, enfin, pour dire, voilà, le chiffre de son départ part pas, n'a aucune importance, pardon. C'est juste pour dégager la place de l'effectif. Mais apparemment, il serait bien pour aller à Paris.
Oui, ben voilà. Ben, merci pour cette petite précision sur le cas Souma. Et oui, donc, vas-y, Narbi.
Ouais, Mathieu, tu disais donc Mounier à gauche. Mounier serait pressenti pour débarquer à Lens. Pour moi, ce serait vraiment une bonne recrue. C'est vraiment une bonne recrue. Bon, après, Olas essaye de l'envoyer un peu partout. Il a d'abord essayé de l'envoyer à Nice pour avoir Rémy. Après, il devait signer à Lille pour un petit arrangement avec Seydou. Mais ça s'est pas fait. Là, s'il va à Lens, je pense que c'est quand même une très bonne recrue parce que c'est un joueur très prometteur. Il a fait plutôt des bons matchs avec Lyon. C'est un joueur jeune. Donc, ce serait vraiment une plus-value. Après, tu disais au niveau des 8. Alors, je sais pas quelles sont les pistes au niveau de Lens pour les milieux relayeurs.
Ben, il y avait Coutadeur.
Ah oui,
mais apparemment, ouais, c'est compliqué. Moi, je verrais bien Meriem débarquer, pourquoi pas. Mais ça, bon, c'est moi qui dis ça, je sais pas. Mais voilà, j'en sais pas plus. Mais juste pour revenir sur comment il s'appelle, le petit Mounier. En fait, apparemment, il va prolonger avec Lyon et derrière, il sera prêté, quoi.
D'accord. D'accord pour cette petite précision sur le cas des transferts du LOSC. Donc
non, pas de LOSC. Voilà. Les Lensois, ils vont t'insulter par MP. Ouais, c'était pas le
LOSC.
Ah oui,
oh pardon, oui, je me trompe sous. Oui, donc voilà, excusez-moi, je vous ai confondu. Bon, en même temps, entre ch'tis.
Ah, mais ils peuvent pas s'oublier,
voilà. De toute façon, il n'y a qu'une grande famille dans le Nord.
Ouais. Bon, elle est recyclée, ça. Elle est recyclée, ça, là, quand même.
Oui, et il y a une réaction du forum de Leek, donc qui est avec nous, qui nous dit... Alors, il a beaucoup écrit, alors je vais tout lire. Lens est un club qui est dans une mauvaise situation. Tout d'abord au niveau financier, où il y a la DNCG qui leur colle au cul. Résultat, ils ne peuvent pas recruter de nouveaux joueurs sans avoir vendu Dindan, d'autres joueurs. Dindan, qui coûte 5 millions, joueur le plus cher de Lens, et Martel veut le vendre en Angleterre, pas en Ligue 1, et seul Monaco s'embête dessus. Mais le joueur ne veut pas venir. Donc, c'est une situation assez embarrassante. Et puis, il y a aussi l'affaire Cuperli, arrivée en juin, qui semble d'être déjà lassée des promesses non tenues par les dirigeants. Voilà.
Et Dindan, il va vraiment partir pour 5 millions?
C'est le prix que veut, c'est le prix que veut Gervais Martel.
Et il pense vraiment obtenir 5 millions pour Dindan? Enfin, moi, je vois pas Dindan partir.
Bah, écoute, tu prends son numéro de téléphone, tu l'appelles, je sais pas,
On l'annonce à Portsmouth et je pense qu'ils seront prêts, ils seraient prêts à mettre 5 millions, hein, donc, voilà.
Je sais pas. Hein.
Ouais, moi je sais pas.
Enfin, je sais pas parce que quand même il y a Monaco qui le voulait pour 5 millions, je pense que, enfin ça peut se faire, mais Portsmouth je pense pas, puisqu'ils ont pas acheté Picon.
Ben oui, mais deux attaquants, c'est pas.
Ah d'accord. Je sais pas, je croyais que c'était seulement un des deux. D'accord. Donc
parce que juste, excuse-moi, mais Monaco, moi, je les vois pas mettre 5 millions. D'ailleurs, si ça s'est pas déjà fait, c'est qu'ils veulent mettre moins, quoi. Et puis bon, vu la guinée qu'ils ont depuis le début de leur mercato,
si
Monaco.
Je sais pas si Ligue peut. Il va peut-être y avoir un problème au niveau de la visite médicale, mais je sais pas si Ligue peut nous en dire plus. Mais j'ai compris que Monaco avait mis 5 millions, mais que Dindan ne voulait pas venir. Je sais pas si tu peux nous en dire plus, Leek, tu nous écoutes. Alors, pour Dindan, Portsmouth a recruté Picon. Enfin, voilà ce qu'il nous dit, Leek. Donc, peut-être qu'effectivement, c'était soit un des deux, hein, au niveau des pistes. Je sais pas, donc si... De toute façon, on verra, oui. Mais je sais pas si Monaco a vraiment mis la somme ou pas. Parce que, apparemment. Moi, enfin, moi, j'ai compris ça. Moi, j'ai compris que Monaco avait mis la somme, mais que le joueur ne voulait pas venir. Oui, donc 5 millions, c'est le prix demandé, mais est-ce que Monaco a offert 5 millions ou alors Monaco n'a pas offert 5 millions?
Bah, sûrement pas, sinon ce serait fait.
Oui, bah, apparemment, c'est le joueur qui veut pas, selon Hugo. Est-ce que Monaco a prosé, oui ou non, 5 millions? Voilà, donc Monaco n'a pas mis 5 millions, t'avais raison Mathieu, parce que Monaco est dans le même cas, Monaco doit vendre avant d'acheter. Et d'ailleurs, du côté de Monaco, bah, ça se dirige vers où pour la piste en attaque, vu que apparemment Dindane, ça va pas se faire.
Donc voilà. Et là, il parle d'un Polonais, je crois, ou d'un, je sais plus,
ah oui, Smolarek.
Voilà, c'est ça.
Non, voilà. On en avait parlé d'ailleurs avant tout le monde. On avait proposé cette piste quand on a su, dans la minute qu'on a su son licenciement par Santander, on en a parlé la semaine dernière, il me semble.
Donc, non, voilà, mais c'est pas lui, je crois, c'est un attaquant qui joue.
Smolarek,
hein. C'est un attaquant qui joue dans un pays de l'Est, je sais plus, je veux pas dire de conneries, donc je sais plus exactement. Et il y a aussi Luca Toni, ils aimeraient le prendre en prêt, mais là, ça paraît très compliqué. Donc voilà.
Donc ouais, faut voir au niveau des pistes en attaque.
Ouais, et Luca Toni était, enfin, d'après ce que j'ai lu, il est tendance vers Tottenham, West Ham ou retour en Italie.
D'accord. Donc merci. Oui, parce que West Ham c'est Gianfranco Zola l'entraîneur. Et donc voilà les pistes. Alves, Alfonso Alves. Donc les pistes, Hugo nous dit que les pistes en attaque de Monaco, ça serait Alfonso Alves et Brozek, le Polonais. Voilà. Ah. C'est lui, Mathieu?
Ouais, je pense que c'est lui, ouais.
Voilà. Bref, de toute façon, je pense pas qu'on retienne son nom. Brozek. Voilà, essayez quand même. Donc voilà, on a parlé un peu de Monaco. Ça fait pas de mal de parler des petits princes. Donc on peut passer à un autre petit sujet. Voilà, je sais que Matt, qui réagissait, attendait avec impatience ce petit sujet. Nancy, donc. On va parler de Nancy, c'est ça. Nancy qui a étrié Monaco. On en parlait. 4-0. Ils se sont fait plaisir, là, les Nancyens, avec un doublé d'Alo et Foulou. Voilà. Ne faites pas de mauvaises blagues sur son nom de famille. C'est, à mon avis, ça doit être déjà assez dur à porter. Voilà. Donc, voilà. Et donc, on a un monégasque d'ailleurs avec nous, enfin il n'est pas avec nous oralement, mais voilà, n'hésite pas à réagir sur la performance de Monaco par rapport à Nancy. Et donc pour parler de Nancy, donc Nancy qui gagne 3-1 à la première journée, lors de la première journée à Valenciennes, et qui gagne 4-0 lors de la deuxième journée à domicile contre Monaco, bah, qu'est-ce qui se passe à Nancy? 7 buts en 2 matchs, meilleure attaque de Ligue. À quoi est dû ce changement? Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, Harpy. Non?
Non? C'est étonnant, parce que Correa lui-même était stupéfait de voir son équipe jouer aussi bien et marquer autant de buts. Après, faut dire que, bon, Monaco était très faible en face. Mm-hmm. Je pense que, Nancy ne va pas non plus continuer comme ça toute l'année. Ils vont sûrement rentrer dans le rang comme beaucoup de l'équipe l'ont fait les dernières saisons. Il y a toujours une équipe surprise. C'était Grenoble la saison dernière, il y a eu Le Mans. Ils vont rentrer dans le rang, mais c'est très bien, un très bon début de saison. La dernière fois qu'ils avaient gagné autant, c'était en 2005 contre Rennes 6-0. Là, 4 ans plus tard, ils mettent 4-0. C'est dire si Nancy a du mal quand même à gagner de plus de 3 buts. Bon, maintenant, on leur demande pas spécialement ça. Hein, c'est pas non plus, ils sont pas là pour marquer énormément de buts. Voilà, donc c'est un très bon début de saison. On se rend compte que leur recrutement d'Aïté, Alo et Foulou et le dernier, je sais plus qui c'est, le dernier.
Bokunjika,
voilà, était très bon. Je crois qu'ils avaient recruté Aïté et Foulou étaient déjà sous contrat avec Nancy, ont été prêtés la saison dernière en Ligue 2. Ils ont fait une très bonne saison. Là, apparemment, Aïté est blessé, mais Alo et Foulou a fait un très bon match ce week-end. Donc c'est vraiment très très intéressant, c'est très judicieux de faire ça. Vu la saison décevante qu'ils ont fait l'année dernière, là ils commencent très très bien. C'est pas, je pense que c'est quand même un trompe-l'œil hein, le fait qu'ils marquent 4 buts contre Monaco et 3 à Valenciennes. C'est pas non plus, c'est assez extraordinaire pour une équipe qui est réputée très défensive. Donc efficacité maximum. Issardia est plutôt bon. Je crois qu'il a joué en pointe à Valenciennes. Je sais pas si je me rappelle bien où c'était ça. Voilà, il montre qu'il est meilleur dans l'axe que sur un côté. C'est une équipe qui est plutôt bien construite, bonne en défense. Au milieu, c'est plutôt bon. En attaque, ça va très vite, notamment sur les contres. Voilà, donc je pense qu'ils vont faire une saison comme d'habitude, hein, où ils vont finir dans les 10, pourquoi pas dans le top 8. Mais bon, je vois quand même Toulouse, Lille, Rennes et Paris devant, donc ils vont pas faire une saison extraordinaire. C'est la surprise de ce début de saison. C'est l'équipe qui impressionne. Elle sera quand même attendue le week-end prochain parce qu'ils sont leaders du championnat. Attention à pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas et tomber de haut. Correa va sûrement reprendre les bonnes vieilles habitudes d'un bloc défensif très très solide et jouer en compte, surtout vu les joueurs rapides qu'ils ont devant avec Issardia et Aluefulu. Donc franchement, je suis plutôt content de voir cette équipe de Nancy qui m'avait impressionné en 2008 en finissant quatrième. Là, il démontre une nouvelle fois que Nancy n'est pas non plus une équipe qu'il faut prendre de haut et qui va jouer le maintien toute son histoire. Ils peuvent faire quelque chose, mais je les vois mal quand même passer au-dessus de la sixième place. C'est une équipe qui joue plutôt bien, une équipe de milieu de tableau. C'est un début de saison, commencer comme ça, c'est très très bien. Après, on verra. Je pense que pour l'instant, ils n'ont joué que Valenciennes et Monaco. On verra contre les grosses équipes, les équipes qui seront plutôt des prétendants à l'Europe, s'ils peuvent tenir la dragée haute et faire les mêmes résultats qu'ils ont fait lors de ces deux premiers matchs.
D'accord. Bah d'ailleurs, Nancy a joué contre Monaco et a gagné 4-0, on le rappelle. Et ben, on a un supporter monégasque. Il me semble que t'as pas vu le match. Mais donc essaye de faire un peu le défenseur, l'avocat du diable, quoi, l'avocat de Monaco, et pourquoi pas, il parle de Nancy un peu. Salut Hugo.
Bah bonsoir à tous. Bah déjà pour Nancy, j'ai une petite remarque. Nancy, c'est un club que je trouve au début de saison, c'est un club de cocu. Contre Valenciennes, Brasigliano a raté un penalty mal tiré, ils ont deux poteaux, Valenciennes je crois ils ont expulsé. Contre Monaco perd parc. Muratori en première mi-temps, un penalty offert par Nkoulou et Pino tire sur le poteau. Ça fait quand même 3 poteaux en 2 matchs contre eux, quoi. Ça rend pas mal. Non mais sinon pour revenir à Monaco, c'est dans la continuité de l'année passée, on fait des bons matchs contre des équipes qui semblent joueurs être des équipes où il faut jouer et on fait des matchs de merde contre des équipes moyennes, enfin voilà, entre parenthèses moyennes. Parce que le match de Ruffier de Nkoulou, c'est pas ce qu'on a vu, par exemple, contre Marseille, contre Lyon, contre Bordeaux, quoi. Je veux dire, là, Nkoulou, il est passé plus du niveau d'un Ronald Zubar que du bon joueur qu'on connaissait, et Ruffier, c'était plus Grégory Vimbé que Ruffier, quoi.
Mais oui, j'avais eu quelques échos de ce match et effectivement j'avais entendu dire que Nancy avait été super réaliste et que Monaco avait vraiment bien vendangé. Donc je sais pas si on peut vraiment s'enflammer, mais moi j'ai en tout cas par rapport à Monaco, ce match ne remet même pas en doute ce que je pensais de l'équipe. Mais sinon pour Nancy, je vois plutôt ça comme pas un feu de paille, mais un match, on appelle ça au tennis, c'est un peu un match chaleur, quoi. Donc un peu en état de grâce, et je vois pas Nancy refaire encore une fois cette performance encore. Et on a quelques réactions d'anciens, et il y a Matt qui nous dit que Nancy devait rentrer dans le rang il y a 2 ans. on a vu le résultat. Je sais pas qui a dit que Nancy devrait rentrer dans le rang. Je crois que c'est Narpi, non? Voilà.
Et
SNL qui nous dit que ce changement est dû à la pauvre saison de l'an dernier. Voilà. Donc SNL qui nous redit Lyon a joué Valenciennes et Toulouse a joué Monaco. Alors pourquoi eux n'ont-ils pas réussi à en mettre au moins 3? Je ne sais pas. C'est une bonne question.
Simplement parce que je t'explique.
C'est le foot, hein. C'est pas. Oui, vas-y, vas-y.
Parce que Lyon, ils sont une préparation, ils sont en train de se chercher, ils ont 4 changements sur le terrain. Nancy, c'est une équipe qui se connaissait assez bien. Ils sont bien prêts pour ce début de championnat, ça se voit. Parce que t'as Lyon, par exemple, c'est encore à la peine, hein. Ils se cherchent et tout. Physiquement, c'est pas au top. Et voilà, c'est des équipes comme ça, au début de championnat, elles sont prêtes physiquement, elles sont prêtes tout court. L'année dernière, on avait Le Mans. Cette année, on a Nancy. Voilà.
Oui.
Des équipes qui ont fait une bonne préparation, ça se voit au début de championnat.
D'accord. Et voilà pour cette petite précision. Et toi, Narpi, qu'est-ce que t'en penses de ce Nancy? Excuse-moi, t'en as déjà parlé. Excuse-moi. Il me semble qu'Adrien, t'as pas parlé sur Nancy. On t'a pas trop entendu sur le sujet. Donc, qu'est-ce que t'en penses de Nancy? Est-ce que c'est faudra vraiment compter sur eux ou ils ont de la chaleur?
Ouais, je pense qu'ils auront leur place entre la 8e et 12e place. J'ai vu les buts en direct, j'ai vu quelques parties du match. Et pour moi, franchement, j'ai pas vu que Nancy était forcément si supérieur, mais après ce qui compte c'est marquer des buts et ils l'ont fait. Après il faut voir s'ils vont le faire sur la continuité contre d'autres équipes, parce que c'est vrai que Valenciennes c'était un peu bizarre comme match. Et Monaco, j'ai l'impression que c'était bizarre aussi. Pour moi, Monaco a fait carrément un non-match. Je les ai même pas. Enfin, ils avaient qu'à pas être sur le terrain, ça aurait été peut-être mieux. Et voilà, je sais pas. Il faudra voir. Mais moi, personnellement, je compte pas sur Nancy de faire quelque chose de grand. Je les vois bien battre une ou deux fois de grandes équipes, peut-être avoir quelques séries de matchs d'affilée qui sont pas mal, mais je vois pas faire plus que ça, quoi. Je pense que Rennes, Toulouse, Paris, Lille, ils sont encore plus supérieurs que. Donc voilà, on verra.
Je suis assez d'accord avec toi. Je vois pas donc Nancy être aussi régulier toute la saison. C'est certes une belle équipe, hein. Ils ont fait un bon recrutement, presque essentiellement Ligue 2. Voire essentiellement Ligue 2. Mais je pense que faut pas trop se fier à ces deux matchs. C'est plutôt des matchs chaleur, quoi, mais je veux dire que c'est pas une équipe que je classe dans les moins bonnes équipes de Ligue 1. Mais et toi Edouard, qu'est-ce que t'en penses de Nancy?
Je pense pas que d'une saison à l'autre l'équipe ait changé complètement de philosophie, de passer d'une mentalité défensive à une mentalité offensive. Je pense comme tout le monde l'a dit, chaque été, la Ligue 1 a droit à une équipe surprise, une équipe qui va faire un bon mois d'août, qui va faire de beaux matchs. Et cette année, je pense que c'est Nancy qui a ce rôle. Mais je les vois pas aller plus loin que ça. Je les vois pas non plus jouer le maintien, mais ni les premières places non plus, comme ils l'ont fait il y a 2 ans. Ils vont faire une saison tranquille, je pense, sans crainte, mais sans objectif fixe, peut-être un bon parcours en coupe, mais je les vois pas aller plus loin que ça. Après, ils ont recruté quelques bons jeunes, dont le bordelais Diabaté, même s'il est blessé. Ça va être une bonne découverte.
Fallait le placer.
Ouais, fallait le placer quand même.
Voilà. Aïté aussi qui est bordelais.
Oui, Aïté.
Et Marange, t'en parles pas?
Les deux sont prêtés, non?
Non, mais Marange, il est plus bordelais.
Et Marange, on passe sous silence, on passe sous silence.
Ouais, ouais, on va le laisser à la cave, Marange, hein, voilà. On va pas le sortir.
C'est une cave.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. Quand on arrive à se faire dribbler par des Nantais, vaut mieux arrêter le foot, quoi. Hein. Bon.
Ou quand on se fait prendre sa place par Jurietti.
Bah, Jurietti, c'est un grand monsieur, Jurietti. On en fait plus des Jurietti.
Ouais. Ouais, il mesure 1m90.
Quoi?
Non, c'était une petite blague, parce que tu as dit que Giordetti c'est un grand, et donc,
ah oui, d'accord.
Il mesure un
petit. Pas besoin de la répéter, elle est déjà tellement minable.
Désolé, Mathieu.
Ouais, moi, juste sur Nancy, j'ai envie de dire, juste sur Nancy, voilà, parce que tu vas me lancer, je pense.
Lâche-toi.
Ouais, non, moi, Nancy, franchement, j'ai pas grand chose à dire parce que je connais pas les joueurs qui sont là. Je vais pas mentir en disant oui, Nancy. Mais quand on taxe Correa de joueur défensif, ben, à mon avis, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, quoi. Et il a des joueurs qui sont meilleurs dans le secteur offensif ou qui peut adopter plus facilement son schéma de jeu, son schéma tactique ou c'est surtout la vitesse, le contre et tout. Donc bon, voilà, Correa, pourquoi pas, quoi. Il fallait pas l'énerver en lui disant qu'il y avait une équipe défensive parce que du coup, en deux matchs, ils en mettent 7, quoi. Mais bon, au-delà de ça, moi, Allo et Foulou, je sais qu'il avait flambé en dernier. Et moi, j'ai vu quelques actions du match, j'ai trouvé vraiment impressionnant, quoi. C'était le deuxième but où il met dans le gardien d'Alvan, de la poitrine, après il met sa frappe et tout. Franchement, je trouve que c'était un excellent joueur et c'est vraiment une bonne pioche pour Nancy, quoi.
Mmh. D'accord. Vas-y, Hugo, hein, sur le schéma tactique.
Non, moi, ça m'énerve, tu vois, qu'on dise Nancy joue défensif et tout, mais Nancy joue plus défensif en Ligue 1, parce qu'en Europe, la saison passée, quand ils jouaient le CSKA Moscou et tout, c'est vraiment assez beau à voir, quoi. Même qu'ils ont perdu 4-3 contre Moscou, mais 4-3, je veux dire, ils ont tout donné, quoi. C'est pas le même Nancy, donc je pense qu'il faut relativiser. Correa joue quand il faut jouer, et bah il ne joue pas quand... C'est-à-dire pour reposer, mais je sais pas, c'est bizarre cette situation à Nancy.
Enfin, faut quand même se rappeler la déclaration de Correa après le 4-3 contre le CSKA.
Ouais,
il a quand même dit c'était n'importe quoi ce match. Moi, si je veux voir du spectacle, je vais au cirque. Donc bon, faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. Ça a pas l'air d'être un foudre de guerre le monsieur.
Mmh. Oui, mais oui, donc globalement, vous, à part Hugo qui fait son marginal, vous ne pensez pas que Nancy ait vraiment changé de mentalité, mais que c'est plutôt de bons coups comme Nancy en a fait. Hein. Nancy en a fait l'année dernière avec la victoire 3-0 au Vélodrome. Mais donc peut-être que cette fois-ci, les bons coups, ces petites belles perfs chaleur, elles se sont déroulées lors des deux premières journées de Ligue 1. Mais il faut pas enlever le recrutement judicieux qu'a fait Nancy. Voilà. Donc voilà, Nancy, on vous a pas trop cassé. On a été gentil. Et donc on peut parler de choses, hein, du sujet d'après. C'est Bordeaux, Marseille, Paris qu'on fait le métier, hein, contre respectivement Sochaux, Lille et Le Mans. Je me trompe pas, voilà. Sochaux, Lille et Le Mans. Sans gros problème, ils ont pas vraiment été inquiétés. Les trois, enfin avec Lyon, on a parlé de Lyon avant. Les trois, Bordeaux, Marseille, Paris, qui ont assuré. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement des performances de ces trois clubs, donc les trois, pas les trois mieux classés du classement, mais trois des plus connus. D'accord. Oui, on peut commencer par le.
Mais d'après tous les commentaires, ce que j'ai pu lire ici et là, Bordeaux a été très costaud en première mi-temps, où ils ont maîtrisé le match. Puis en deuxième mi-temps, enfin, pas comme d'habitude je dirais, mais ils sont amusés à se faire peur, à encaisser des buts de manière débile. Et c'est encore une sale habitude, on sent que la défense est en rodage. Siani est pas encore prêt d'après Laurent Blanc, donc ça devrait venir... Sûrement dimanche contre Nice, je pense qu'il sera aligné en vue du match contre l'OM dans deux semaines. Mais il faudrait surtout revenir sur la prestation de Marwan Chama, qui est son début de saison qui est assez exceptionnel. Malgré les rumeurs de départ, on sent qu'il est encore là. Il fait le boulot et d'excellente manière. Avec un très bon état d'esprit, donc contre Sochaux, c'est jamais facile de gagner à Sochaux. C'est le genre de déplacement un peu pourri dont la Ligue 1 regorge. Et on gagne 3-2 sur deux coups de pied arrêtés. Je vais pas dire qu'on s'en sort bien parce qu'on était assez supérieur, mais Bon, l'essentiel est fait, quoi. Un peu comme contre Lens, où c'était un peu un match soporifique, mais Bordeaux a pris les 3 points, et puis c'est tout, comme on dit, quoi.
Juste
sur Chama, qu'est-ce que tu dis? L'état d'esprit, c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi, mais tu dis ouais, il ferme, il est bien présent, c'est vrai, mais peut-être qu'il fait ça aussi pour convaincre encore un peu plus ses locuteurs étrangers, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais. Je sais pas si tu voilà.
Ouais, c'est mais d'un côté, s'il flambe autant, ça va aussi convaincre les dirigeants de le garder encore plus. Puis chaque
minute, ça, il va le garder, hein.
Ouais, chaque minute qui passe, ce sera encore plus dur pour lui de partir, parce que le voir partir dans la dernière ligne droite du championnat, ça va être terrible pour Bordeaux. Ils vont devoir trouver un passeur de quatrième vitesse. Chamac, c'est quand même le deuxième joueur après Gourcuff qui a fait la meilleure saison l'an dernier. Et c'est pas le style de joueur qu'on trouve facilement sur le marché, qui sera facilement remplaçable. Et comme on l'a vu dans les rumeurs de remplacement s'il part, Laurent Blanc veut chercher une nouvelle planche, quoi. Il va pas chercher un nouveau style de joueur. Donc ça va être difficile s'il part.
Vas-y.
Ouais, bah moi je vois bien partir dans les 5 derniers jours du mercato, c'est du Wenger tout craché, ça. Enfin, malheureusement pour Bordeaux, ouais. Hein, c'est clair qu'il fait une super saison là, il commence bien. C'est quoi, c'est déjà 3 buts en 2 matchs. C'est plutôt pas mal. En plus lui et Gourcuff, ça combine vraiment bien avec les ailiers aussi, enfin. Je sais pas, je trouve ça dommage, mais je pense, pour moi, malheureusement, il va partir. Enfin, j'espère pas, hein. Moi, j'aime bien ce joueur.
C'est-à-dire que Bordeaux a vraiment mal joué le coup, quoi. Il a plus qu'un an de contrat, là, c'est Bordeaux la profonde, et si jamais Arsenal revient dans la dernière ligne droite et fait une offre correcte, si Bordeaux refuse, Chamac, je pense pas qu'il va la laisser passer, quoi.
Ouais, il va faire.
Et à moins que Chamac fasse preuve d'un professionnalisme extraordinaire en refusant de rentrer dans le jeu d'Arsenal, ça va être très 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 compliqué, parce que d'un côté Bordeaux n'a pas vraiment enclenché de dossier pour le remplacer, d'après ce qui se trame en coulisses. Et c'est-à-dire que Chamac, ça fait depuis qu'il est à Bordeaux, enfin, depuis toujours, quoi, il a toujours répété que son rêve, c'était de jouer en Première Ligue, de jouer à Arsenal surtout. Et si jamais Arsenal vient et fait une offre correcte, que ce soit le 25 ou le 28 août, Bordeaux, ils seront dans un cul-de-sac, quoi. Ils vont pas pouvoir refuser longtemps. Ils sont dans une impasse, quoi. Ils vont devoir faire un sacrifice, et dans les deux cas, ça risque de mal se passer, qu'ils refusent ou qu'ils acceptent, ils seront dans la merde.
Bah moi je suis pas trop de ton avis, Adrien, je le vois pas partir du tout, dans le sens que Arsenal est en train de récupérer Eduardo qui revient d'une blessure, Rosicky et même Wenger l'a déclaré. Van Persie également, voilà. D'ailleurs on a un supporter d'Arsenal ici, mais je pense pas que l'idée de Wenger soit d'acheter un avant-centre supplémentaire. Il me semble même qu'il recherche plutôt un défenseur qui s'appelle Kean Angelan, non?
Bah ouais. Surtout au niveau de l'attaque, ouais. Je pense pas que Chamac serait immédiatement titulaire. Parce que en plus d'avoir changé de système de jeu, il y a des joueurs qui sont en train de s'imposer.
Oui. Et en plus, Wenger a eu l'occasion de faire une offre suffisante, il l'a pas fait, je vois pas pourquoi il reviendrait à la charge à quelques jours de la fin du mercato pour lâcher. Surtout qu'en plus il l'a déclaré là qu'il ne voulait pas recruter un autre avant-centre. Et il y a un bordelais qui m'annonce en off que qui m'annonce qu'il s'appelle Gagbé, d'ailleurs je le salue, il me dit j'annonce, il reste, je mets une signe de Bakayoko s'il part. Et il me rajoute qu'il n'y a que West Ham qui est dessus et leur offre est ridicule. Dans tous les cas, les dirigeants le retiendront, c'est beaucoup trop tard. Voilà.
En fait, West Ham, je crois qu'ils proposent 5 millions plus 50% à la revente, et Bordeaux, c'est no way, quoi, négatif, quoi.
Bah oui, c'est compréhensif. Mais c'est même moi d'un avis extérieur, je pense que c'est dans l'intérêt de Chamac de rester, et c'est aussi dans l'intérêt de Bordeaux. puisque si Chamac part, ça sera, à mon avis, déjà, apparemment, il n'y a pas de club qui serait capable de mettre 10 millions, voire plus. Et même si Bordeaux lui achète un remplaçant, ça sera dans ces eaux-là, dans cette somme-là. Donc, autant garder Chamac qui marche très très bien, ça sera, même s'il part gratuitement à la fin de la saison, à l'heure qu'il est, Bordeaux doit faire tout son possible pour le garder plutôt que de le vendre pour une somme légèrement supérieure à 10 millions d'euros.
Ouais, excuse-moi, juste, je sais pas si tu finis si...
Oui, je pense aussi dans l'intérêt de Chamac, parce que partir libre, il aura beaucoup plus de sollicitations s'il part libre, parce que ça sera gratuit, il y aura juste le salaire, et surtout s'il continue dans cette voie, s'il fait une superbe saison, ça peut lui offrir encore plus de portes que là, il a que la proposition de West Ham apparemment. Donc, je pense que c'est largement dans son intérêt de partir l'année prochaine libre. Il pourra partir en Angleterre en plus, je pense.
Ouais, parce que maintenant les joueurs, on a l'impression que voilà, alors ce qu'ils veulent le plus, c'est partir libre, comme tu dis, pour pouvoir signer où ils veulent avec une prime en plus à la signature. Mais bon, c'est sûr que sportivement, ce serait un bon coup qu'il reste. Ce serait un bon coup pour Chamac aussi. Mais après, financièrement et plus sur le long terme, je sais pas si c'est vraiment un bon coup. De ce côté-là, Laurent Blanc, apparemment, il en a un petit peu rien à foutre, parce que pour lui, je pense qu'à la fin de la saison, voilà, quoi, il partira. Donc, oui, je pense que ce serait, pour tout le monde, ce serait mieux qu'il reste, sauf peut-être sportivement, financièrement, ou bon, il y aura peut-être un petit regret de la part des dirigeants bordelais, quoi.
Oui, il aurait fallu le prolonger plus tôt, voilà. Ça, c'est clair. Ouais. Voilà. Donc voilà. Et toi, Narpi, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui est Grenoble ou pas? C'est aucun rapport, je sais, mais...
C'est le mec qui cherche des rapports pour chacun.
Donc non, tu t'en fous de Chamac, apparemment,
non? Moi, je pense que si Chamac s'en va, Bordeaux ne sera pas champion, c'est sûr. Même si... d'après ce que j'ai entendu, apparemment les remplaçants seraient comme des joueurs comme Zgic, etc. Chamac est beaucoup trop important dans l'équipe pour que ça ne fasse pas des dégâts sur la suite de la saison. Je pense que si Chamac, alors apparemment il pourrait rester, mais bon, j'y crois pas trop. Si Chamac s'en va, je vois Marseille et Lyon devant, ou en tout cas Marseille devant. Après on verra, hein, mais pour l'instant, Kavenagi, j'ai regardé ses matchs, c'est pas le Kavenagi exceptionnel qu'on connaît. Enfin, exceptionnel, c'est pas le Kavenagi qu'on connaît, qui marque énormément, enfin qui marque pas mal de buts. Donc bon, Chamac est beaucoup trop important à l'heure actuelle dans l'équipe pour que Bordeaux s'en remette sur le court terme. On verra au fil de la saison, on verra son remplaçant, mais pour l'instant, je vois pas Bordeaux champion avec l'équipe qu'ils ont sans Chamac.
Bah déjà, Jean-Louis Trio a annoncé aujourd'hui qu'il y avait 99% de chances que Chamac reste. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'était pour le dire, quoi. Et ensuite, ouais, je suis d'accord avec toi, si Chamac part, déjà, ils trouveront pas un remplaçant aussi bon que lui, ça c'est pas possible. Tant sportivement et tant sur l'importance qu'il a dans le groupe, que ce soit l'image que tout le monde a de lui et les relations qu'il a avec les joueurs, on peut voir l'énorme complicité qu'il a avec Gourcuff. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Et après les noms qu'on balance pour le remplacer, c'est très très faible. Les Zigic, j'ai jamais su ce que tout le monde lui trouvait. Ça sent un peu joueur surcoté. C'est un peu comme Pavlyuchenko. C'est le genre de type, tu sais pas vraiment ce qu'ils veulent, mais ils sont un peu sucés par tout le monde.
Non, c'est différent pour moi les deux.
Ouais, quand même.
Zigic a plus les pieds carrés selon moi que Pavlyuchenko, quoi. Qui croque pas mal, mais qui est quand même un bon attaquant.
Et c'est pas pour rien que Valence cherche à le refiler partout et nulle part. Je vois pas le rapport avec Pavlyuchenko.
Ouais, c'était juste pour placer ça, vu que je trouve que Pavlyuchenko est surcoté.
Tu parles de Kavenagi plutôt.
Ouais, bon, donc aussi, je veux aussi enchaîner sur ce qu'a dit Narpi sur Kavenagi. Ouais, donc moi aussi, je trouve pas qu'il fait un début de saison fracassant. C'est-à-dire que c'est l'utilisation que je trouve bizarre. Il joue pas dans le tueur des surfaces, il reste pas collé dans les 20 derniers mètres. il redescend beaucoup. Et limite, Chamac est un cran au-dessus de lui. Et c'est ça qui est assez bizarre. Il redescend beaucoup, il essaie de participer au jeu. Sauf qu'après, quand il faut mettre le vieux ballon tout pourri dans la surface, il y est pas. Et en dehors de la surface, il a pas les qualités pour faire la différence, quoi. Quand il a le ballon, il est très très lent pour choisir une décision. Dos au but, il arrive pas vraiment à se retourner et à remettre une frappe. Et c'est difficile pour lui, quoi. On était surtout habitué à le voir jouer dans la profondeur, mettre les vieux buts sur coup de pied arrêté, les petits lobes, les petites frappes. Et là, je trouve qu'il joue pas son jeu, quoi. Après, je sais pas si c'est une consigne de Laurent Blanc, mais ouais, c'est pas terrible. Mais bon, il est pas catastrophique non plus, parce que je sais pas si vous avez vu les buts qu'il a marqués, mais il est impliqué à chaque fois. Dans les deux buts contre Lens, il est impliqué. Et dans le but de Wendel, il est impliqué aussi. Et bon, moi, ouais, je doute un peu, parce que bon, je suis un fan absolu du joueur, mais je comprends pas trop son utilisation. Je comprends pas trop son utilisation actuellement. Bon, j'attends de voir ce qui va se passer, mais ouais.
Mais là, c'est pas physiquement ou ça pêche un peu concernant Kavenaghi, je sais pas.
Ouais, justement, c'est pas un foudre de guerre physiquement. Il est pas très rapide, il est pas bien physique. Donc c'est pour ça qu'il c'est surtout je sais que le terme plaît pas à certains, mais c'est un buteur à l'ancienne, quoi. Il était là, il mettait les bonnes petites frappes, et puis c'est tout. C'est pas un athlète, quoi. Le type, c'est pas un athlète, c'est juste un footballeur, quoi. Je sais pas si ça vous plaît, mais c'est comme ça que je le ressens. Et pour conclure un peu, ouais, donc si Chamac part, ça craint sec pour Bordeaux, et je suis très pessimiste. Bordeaux a archi mal joué le coup.
Bon, je sais pas, derrière il y a Bellion quand même.
Non, je pense que CV va passer devant Bellion bientôt. Mais ouais, les dirigeants ont vraiment mal joué le coup, tant sur la prolongation, tant sur les négociations de cette année. Et plus le temps passe, plus c'est dangereux pour Bordeaux. Tu l'as déjà dit.
Oui.
Je vois un commentaire de Touko sur le bar. Donc il dit, dans l'hypothèse où Chamac part de Bordeaux, ce serait pas trop patate d'avoir une configuration de Diarra Fernando en défensive, Gouffran Wendel sur les flancs, Gourcuff dans sa configuration EDF, et Kavenaghi sans la pointe. Kavenaghi, c'est pas une pointe. Il a joué comme ça au Spartak Moscou, ça a pas du tout marché, ça lui a pas du tout plu. Il l'a souvent répété dans les interviews, donc je pense pas que ce soit possible de cette éventualité. Mais ce que je trouve le plus dommage, c'est que si Chamac part, d'après les noms qui traînent, c'est que Blanc cherche un joueur du même profil. Et des joueurs du même profil que Chamac à l'heure actuelle, des aussi bons, il y en a pas. Ou alors c'est impossible de les avoir pour un club comme Bordeaux. Donc ouais, j'aurais préféré qu'on cherche un joueur dans le style de Bellion, justement, parce que Bellion, c'est un joueur certes limité techniquement, parce qu'il a une confiance en lui qui est extrêmement faible, mais sinon c'est un joueur qui prend très très bien la profondeur, qui quand il est dedans il fait des super matchs, et j'aurais préféré qu'on cherche un joueur comme ça qui prenne la profondeur, peut-être Bellion, peut-être Gouffran, et après on associe Kavenaghi à côté de lui, mais Kavenaghi dans le rôle de buteur, c'est ce qu'il sait faire le mieux, plutôt qu'il continue à redescendre comme il le fait actuellement. Je comprends pas trop d'ailleurs, parce que la seule fois où il avait ce style de jeu, c'était en l'année 2008 où il claque 15 buts en 17 matchs, et en fait il n'y avait pas de numéro 10 derrière lui parce que Miku n'était pas indiscutable, donc lui il avait un peu le champ libre, il pouvait redescendre, animer le jeu, remonter et participer avec Chamac, les enchaînements et compagnie. Donc ouais, c'est le flou. On va essayer de chercher ma creste, quoi.
T'étais inspiré. Hein. Oui, donc voilà, donc en gros, on a bien parlé sur Kachamak et Kavenaghi en pointe, donc tu t'aimerais pas cette...
Non, c'est pas possible, et lui aussi, lui aussi, c'est pas ce qu'il souhaite, Karinagi. Il l'a toujours dit, donc c'est voué à l'échec, quoi.
D'accord, donc c'est voué à l'échec. Mais oui, donc il y a la réponse de Tuco qui nous dit, genre, il me contredit, de toute façon, on s'en va les couilles, Schmar va rester. Voilà, donc voilà, merci pour le petit mot de la fin sur Bordeaux. On va parler un peu de Marseille et de Paris rapidement, parce que là, on va pas être dans les, on va être hors temps, là, désolé, mais vite fait, sur Paris, belle satisfaction, Erding. On peut parler un peu d'Erding. Tiens, Adrien, t'as vu le match qui marque un très joli but. Un peu du même style que Niang à Grenoble dans la construction, plutôt que la frappe, hein, dans l'élimination de la défense. Et donc, parlons un peu d'Erding, Adrien. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Ouais, il est bon. non, ça va. Moi, j'ai trouvé vachement bon. Après, je pense qu'il lui manque à Paris, c'est, je pense que là où il sera vraiment, vraiment super bon, c'est avec Waro. Parce que, aller dans des espaces que Louis Ndoula voulait prendre, mais lui, il le faisait mieux. Donc, j'imagine vraiment ce qu'il ferait avec Waro, qui serait en quelque sorte un point d'appui. Et qui remettrait des ballons dans la profondeur pour Erding. Et là, ce sera vraiment, vraiment génial. Sinon, lui, tout seul, bah, ça va. Il a été très bon. Il a eu 2-3 occasions encore. Voilà, il a rattrapé le coup de Montpellier où il a vraiment raté 2 occasions vachement nettes. Après, je pense qu'il s'intègre bien. Je pense que ses partenaires aussi jouent beaucoup plus sur le, enfin, offensif. Et Clément aussi, il a été plutôt pas mal dans le match. C'est lui qui a fait la passe vers Erding. Il a su quand même, au contraire de ce que disent beaucoup de Parisiens, il a su quand même un peu être plus offensif que d'habitude, même si j'aurais aimé qu'il frappe quelques fois où il avait des possibilités. Sinon, Paris, ça va, ça a été. Le Mans, c'était pas la super équipe non plus. Je sais pas, il faudra confirmer à Valenciennes, il faudra voir ce que ça donne avec Waro. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le positionnement de Julie et de Cessegnon. Quand ils étaient avec Le Guen, on les obligeait, surtout Cessegnon, quand il était, que ça soit sur la droite ou sur la gauche, il était beaucoup plus obligé à rester sur son côté, sur la ligne. Il bougeait pas trop, enfin il rentrait pas beaucoup, et pareil pour Julie. Alors que là, il change de position tout le temps. Il y en a un, il se retrouve à gauche, l'autre à droite, et ils interchangent. Il y en a un, il se retrouve à côté d'un attaquant, il y en a un, il se retrouve dans la profondeur, il y en a un, il récupère le ballon. Ça bouge vraiment beaucoup, je trouve ça bien. Et puis je trouve que Makelele et Clément leur couvrent défensivement. Et j'aime bien l'apport de Serra aussi, donc je pense que malgré le fait que ça soit pas tactiquement, mais dans le 11 de départ, pratiquement le même que Le Guen, c'est pas du tout la même configuration. C'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'Armand et de Serra dans le jeu offensif. Et je pense que si ça continue comme ça, ça pourrait être un bel exemple du 4-4-2 qui pourrait marcher. Mais après, il faut voir ce que ça donne sur la longueur. Mais moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait contre Le Mans. Je pense que malgré ce que disent les gens, j'ai aussi trouvé que c'était pas mal contre Montpellier. Il fallait mettre les buts, mais ils les ont pas mis, ils ont pas été réalistes. Maintenant, on va voir contre Valenciennes s'ils sont aussi réalistes qu'ils ont été contre Le Mans. Bah moi, je me fais pas beaucoup de soucis pour le PSG. Et comme dit Hugo, ouais, Julie est pas mal en ce moment, c'est vrai. Et puis je trouve qu'il a beaucoup d'apport sur les derniers gestes. Je pense qu'il est plutôt pas mal enfin, même s'il pêche un peu parfois dans la dernière passe, il met un peu trop de force ou il pose pas bien le ballon. Je trouve qu'il est super important dans la dernière frappe, dans la petite passe qu'il faut, dans le petit placement où il doit être. Enfin, c'est un. Il fait partie c'est un joueur important dans l'équipe, et j'espère vraiment pas que si on recrute par exemple un joueur à gauche pour remplacer Roten, qu'il va pas sortir. Et moi, je trouve que malgré lui qui aime pas
jouer ailier droit, je trouve qu'il est dans une bonne position là, et que quand t'as un 4-4-2 comme ça, où il n'y a pas forcément de centreur, je pense que Julie et Cessignon ont leur rôle un peu libre. Donc,
Et d'ailleurs, une petite précision, t'inquiète Mathieu, tu pourras parler du but d'Harding. Il y a une réaction de mal dominant alias Touko, donc on compte saluer, on espère que tu seras de retour hein, pour refaire le MC de la Spécial Ligue 1. Donc le mec qui s'est fait briser les reins par Harding s'appelle Cyriac Louvion et était perturbé par le futur procès qu'il opposera à ses parents pour l'avoir baptisé de la sorte.
Donc voilà, tu vois, les grands esprits se rencontrent, parce que moi aussi je voulais parler de Louvion, parce qu'en fait voilà, j'ai trouvé que sur le but Erdic met un joli but hein, je veux pas miser la performance, mais il faut dire que bon voilà, il est vraiment très moyen d'action. Donc voilà, c'était juste ça quoi.
Ah non, mais c'est clair, lui il a été horrible. Après franchement, je sais pas si le but d'Erdic aurait passé contre peut-être une défense meilleure. Mais bon, après on sait pas. Mais c'est clair, la défense du Mans a vachement pêché. Le gardien n'a pas été super bon non plus. Après, j'ai envie de dire, sur les trois buts, bon, le coup franc, le but contre son camp, c'est un peu, enfin voilà, c'est un peu bizarre. Le premier but, je pense qu'il a mal plongé. Après, je suis pas gardien, donc je pourrais pas dire ce qu'il aurait fallu faire. Mais je pense qu'il aurait peut-être dû mettre des bras, tu sais. Et après, sur le but de Julie aussi, je trouve qu'il fait pas l'affaire, enfin Julie qui le met au premier poteau alors que l'angle est plutôt fermé. Je sais pas. Moi je vais voir ce que ça donne contre Valenciennes, mais sinon j'ai plutôt aimé le match. J'ai surtout aimé les positions de certains joueurs et surtout les latéraux et de Julie et ses seniors. Enfin voilà.
Et Coupé, apparemment, il a fait quelques belles sorties. Tu as pensé quoi du match, de son match plutôt?
Ah ouais, Coupé, il a été vachement rassurant, ouais, ouais, il a été bon, il a été très bon. Je trouve qu'il fait le boulot. Ça change un peu, ça change un peu de Landreau, mais je sais pas. À Landreau, quand il y avait une frappe, t'avais peur, tu vois. Coupé, c'est beaucoup plus rassurant. Le gars, il a géré, puis ça se voyait qu'il participait bien. Donc, j'étais content de son match aussi. Les deux seules personnes qui m'ont un peu gêné, c'était Sako et Traoré. J'ai trouvé qu'ils étaient un peu louches par moment, et ça me fait mal de le dire, mais j'aurais préféré voir Bourillon, parce que Bourillon Sako c'était vachement complémentaire la semaine dernière. Je pense que ça peut bien marcher cette année en cas de mauvais retour de Camara, donc on va voir.
Parce que sur le but des Manceaux, Traoré apparemment voilà quoi.
Ah ouais, mais pas que Traoré. Traoré et Sako, ils se trouvent complètement. Tu comprends rien ce qu'ils font. Autant Traoré il reste parce qu'il pense qu'il peut l'avoir la tête, autant Sako il bouge pas pour aller chercher la balle, tu vois.
Mais pourquoi c'est pas Bourillon? Pourtant il a fait les premiers matchs, Bourillon, non?
Ouais, voilà, il a fait les premiers matchs. Je sais pas, franchement je pourrais pas dire pourquoi il a pas joué. Je pense que c'est peut-être il a mis Traoré pour contrer Elstad au niveau de coup de pied arrêté.
D'accord, ouais.
Après je sais pas, mais personnellement Traoré, il a fait un peu peur. Et moi, j'aime bien Traoré. C'est un joueur utile, mais je pense pas qu'il devrait être titulaire au PSG. Je pense que Bourillon, malgré lui, il mérite mieux plus sa place en ce moment que Traoré.
Bah d'accord. Bah merci Adrien. Ce petit couplet sur le PSG, qui est donc après 4, avec 4 points, qui est bien placé, il me semble, en 6e position. Je suis pas sûr du tout. Donc bref, à 2 points de Nancy qui est en tête. Bah, je pense qu'on n'a rien d'autre à ajouter sur ton club, Adrien. On peut parler du dernier, le meilleur pour la fin, bien sûr. On peut parler. Donc,
Lens.
On peut parler. Comment?
De Lens.
Non. On va parler de Marseille.
Ouais, donc j'enchaîne apparemment.
Oui. Donc, oui il y a eu un petit problème au niveau du lançage de jingle, excuse-moi, vas-y.
Ok, donc pour un match, attends, je crois qu'on nous a envoyé le jingle derrière, mais en fait non. Ouais, pour un match un peu particulier, parce que bon, on était sur terrain neutre, et pour une équipe à qui manque 3 titulaires, on peut dire que c'est un match quand même qui a été pas trop mal. Surtout la première mi-temps où l'OM a complètement maîtrisé et étouffé les Lillois, notamment au milieu de terrain. parce que comme à son habitude depuis le début de la saison, Marseille joue assez haut avec un Edouard Cissé qui est vraiment un mot que j'aime bien, qui est assez bon tactiquement, donc qui monte assez haut, et de ce fait toute l'équipe monte, et c'est un peu lui le point de repère apparemment de toute l'équipe. Donc voilà, une très bonne première mi-temps avec un but de Brandao à la 11e minute. Enfin, on pourrait dire enfin, même si sur le coup Butel, on va dire, il est pas impérial, il faut dire la vérité quand même. Hein. Ensuite, voilà, il y avait beaucoup de puissance, de sérénité, le milieu vraiment vraiment bon. La défense a bien tenu le coup, notamment Diawara qui a fait deux beaux dégagements. Bon, après on va nous dire qu'il a pas de relance, mais pour être clair, on s'en bat les couilles quoi, parce qu'il a il a dégagé des ballons chauds, donc il y a rien à dire quoi, il y a rien à lui reprocher. J'ai trouvé Nyang vraiment un peu trop bon. Parce que bon, voilà, il a beaucoup croqué. Bon, je vais arrêter de parler parce qu'il y a l'écho derrière, c'est relou, quoi.
Ouais, c'est vraiment chiant.
Ouais, je sais pas si ça s'amuse, mais bon.
Voilà.
Bon, bref. Ouais, donc Nyang, comme il a mis un but où il a dribblé toute la défense contre Grenoble, on a l'impression qu'il a voulu faire pareil. Il gardait trop son ballon. Attendait trop long, il a trop attendu avant de lâcher son ballon, de faire des centres et tout, donc il m'a un peu déçu sur sa première mi-temps. Donc voilà, mon impression sur la première mi-temps, Ben Arfa, qui a été un petit peu, bah, on va dire, un peu Casper, quoi. Il y a que vers la fin de la première mi-temps où il a joué sur le côté gauche, il a permuté avec Nyang, et franchement, je l'ai trouvé un petit peu meilleur. Mais bon, sans plus, sinon, pour parler du match un peu plus en général, on me survend Caboret arrière-droit, alors que voilà, moi pour moi, Caboret ne fera jamais un bon arrière-droit, enfin en tout cas pour l'instant, parce que même pour deux bons centres, il va laisser passer deux joueurs lillois où on a failli se manger des buts, notamment sur l'énorme occasion de Cabaye et sur la frappe en fin de match de Hazard, ça passe tout par son côté, surtout sur la première occasion de Cabaye, c'est pour lui quoi. Donc voilà, sinon il y a eu NZ qui a été pas trop mal sur la deuxième mi-temps. Voilà. Sinon l'expulsion, on peut parler d'expulsion. Ben il y a faute, je pense qu'il y a faute. Mais il faut dire la vérité, Nyang il accentue vachement sa chute. Parce qu'il faut dire que Debuchy Nyang a fait la misère, donc automatiquement il s'est pris des coups. Et Debuchy, voilà, il s'est lâché un petit peu sur lui. Donc en faisant ça, Nyang s'est un petit peu vengé. Bon. Après on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'il accentue, mais il y avait faute à la base, donc je pense qu'il n'y a pas de polémique à avoir. Sauf peut-être les Lillois vont réclamer un péno en toute fin de match où il y a un gros cafouillage entre Enze et Diawara, ils se marchent un peu dessus, je sais pas ce qui se passe. Et Diawara retient par l'épaule, je sais plus quel joueur. Il aurait peut-être pu avoir un péno, mais bon, voilà. Mais dans l'ensemble, 10 minutes où vraiment les Olympiens ont flippé, quoi, on a eu peur. Même les supporters ont flippé, mais finalement, bon voilà, ça passe. Comme je le dis, pour une équipe à qui manque 3 titulaires et pas des moindres, c'est pas mal. Alors on va me dire, oui, Marseille a un banc, ok, mais il y a quand même une différence entre les gars du banc et les gars qui sont sur le terrain. Oui. Même si Abriel a été énorme. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, depuis le début, j'apprécie son jeu, mais là, il a gratté beaucoup de ballons. Et il a vraiment bien orienté le jeu. Enfin, un jeu simple, rapide, vers l'avant. Il a vraiment été énorme, quoi. Ensuite, Koné, il a fait une belle entrée. Bon, moi, c'est mon protégé, vous le savez, mais voilà, c'est vrai qu'il a croqué, il a mis une frappe pourrie. Bon, ça, c'est vrai. Après, il a tenté un lob un peu à l'américaine, mais bon, voilà, Butel l'a rattrapé. Voilà, et en fin de match, par contre, il met une superbe reprise que Butel sort. Donc ça, bon, voilà.
C'est-à-dire quoi, c'est un lob à l'américaine?
Ah, non, mais tu sais, l'américaine, on écoutera l'américaine, ça veut dire que bon, voilà, quoi, les mecs, voilà, c'est moyen, on va dire, quoi. Mais bon, c'est pas une attaque envers le.
À la clean dance.
À la bannière étoilée, tu vois, donc voilà, c'était pas ça. Ouais, donc après, sinon, en vrac, je vous dis tout en vrac, parce que, bon, Chirou, bon, voilà, Chirou, énormissime, comme d'hab, il a mis une frappe du gauche, une frappe du droit, qui a failli rentrer. Donc, voilà, là, ça me vient pas, mais dans l'ensemble, un très bon match.
Aussi, qui a fait son boulot.
Voilà, ben j'en ai parlé au départ, comme quoi, tactiquement, c'était le repère. Donc voilà, dans l'ensemble, un bon match, mais celui des dernières minutes, on a flippé. Mais bon, quand même, je voudrais dire que Marseille, c'est la seule équipe parmi les favoris qui a rencontré une équipe du calibre de Lille, il faut le dire. Et là, on a un calendrier compliqué, parce que là, on va avoir notre ami Antonetti à Rennes, et ensuite, le premier match à domicile contre Bordeaux. Donc bon, même si Marseille ne prend pas tous les points sur ses prochains matchs, faudrait être indulgent parce que vu le calendrier, bon voilà. Mmh. Donc voilà quoi. Je sais pas ce que j'ai assez parlé.
Oui, oui, et vas-y, Edouard. Hein.
Ouais, donc, juste pour faire part d'une réaction qu'on m'a faite en interne, pour souligner le fabuleux coaching de Rudy Garcia, qui a mis Gervinho et Eden Hazard sur le banc.
C'est
donc,
vrai.
Je fais parvenir cette information. Qui est, j'ai vu le match de loin, donc je pourrais pas trop juger, mais effectivement c'est assez bizarre vu que c'est les, de ma, à ma connaissance, c'est les deux seuls joueurs lillois capables de vraiment apporter du mouvement, créer des décalages, mettre un peu la panique. Surtout que bon, il y avait Kabore arrière droit, Taiwo. Bon, et, pff,
moi j'ai. Taiwo a été irréprochable, donc bon, la prochaine fois peut-être, mais.
Je dis que c'est pour moi c'est pas une lumière défensivement, donc il, Eden Hazard ou Gervinho aurait pu créer quelque chose face à lui, et bon il a préféré les laisser sur le banc. Bon, ça c'est un peu incompréhensible, hein. Bon, après il a fait son choix, donc c'est, après c'était qui était en pointe, c'était Demelo en pointe pour
Demelo et Aubameyang.
Aubameyang à gauche,
voilà, et à droite Aubragnac, et dans l'axe Demelo, ouais.
Et Aubragnac, il est pas encore parti.
Mais il a prolongé ou non? Il s'est fait réévaluer salariel, vous avez compris, c'est fait augmenter son salaire. Et donc il reste, et voilà quoi, il reste.
Ok.
Et on a une petite info. Petite info importante, hein. Désolé de vous couper, mais c'est quand même l'info de la soirée. C'est Quincy Antipas qui est actuellement à l'essai au Havre. Le milieu de terrain international zimbabwéen qui évolue actuellement au FC Blocus de Ligue 2 danoise. Voilà, merci pour Touko.
Merci parce que si j'avais pas eu cette information, j'aurais peur de pas arriver à m'endormir ou faire des cauchemars.
Bah ouais, je pense que vous endormirez plus calme.
Ah oui, sinon, juste un truc, je voulais revenir sur un truc, Mbia n'était pas là.
Rantau.
Parce qu'il a une grippe et certains pensent que c'est la grippe A, donc ils ont préféré le faire rentrer à Marseille. Pour qu'il soit un petit peu à l'écart, en attendant de la confirmation, parce qu'il va passer des tests. Donc j'espère que j'aurai pas la grippe A à cause de Mbia, quoi, voilà.
Ça serait con, hein.
Et d'ailleurs, t'annonces la grippe A.
J'ai pas compris, pardon.
Je sais pas si t'as parlé de Brandao.
Oui, Brandao, ben j'ai juste dit son but énorme, enfin un très beau but, mais comme j'ai dit aussi, Butel était vraiment à la pêche. Donc après il a eu 2-3 occasions qu'il a croqué, on va dire, notamment voilà, là alors là ça ferait plaisir à Touko parce que côté droit il y a Abriel qui fait un centre à mi-hauteur et donc c'était sur le pied droit de Brandao et lui ce qu'il a fait, il a essayé de mettre une tête mais bon vraiment foiré. Oui. Donc il est pas en confiance. Alors si t'es en confiance, il aurait peut-être tenté la volée du droit, mais Touko l'autre fois disait que voilà, il y avait pas de gaucher dans l'axe dans un 4-3-3 et bon. Voilà, là ça apporte un peu d'eau à son moulin, mais je pense quand même que si Brandao était en confiance, il aurait mis la reprise du droit et peut-être que ça aurait passé. Mais il a eu d'autres occasions et c'était vraiment moyen, quoi. Il a réussi à marquer, c'est passé juste, mais bon voilà, sans plus, quoi. Il est mieux. Comme je dis depuis le départ, voilà, il a peut-être eu du mal à encaisser sa préparation physique, il a du mal à la machine a du mal à se mettre en route et peut-être que ça ira, mais néanmoins, ça reste quand même un joueur un bon joueur, mais qui selon moi manque quand même d'efficacité. On verra bien, mais bon, là c'est passé, tant mieux.
Enfin, moi, il me fait peur. Enfin, on verra. Là, il a marqué son but, on peut pas trop le critiquer, mais bon, je pense qu'à l'avenir, il va nous faire peur et qu'il sera vraiment remis en question. Voilà. C'était juste un petit passage. Voilà. D'accord. Rien à dire sur le splendide match de Marseille. Ouais.
Narpi voulait parler quand même.
Oui, vas-y.
Juste un petit truc. Ouais, c'était justement pour revenir ce qu'a dit Edouard sur Rudy Garcia. Je pense que vraiment il a fait le con parce que Hazard était titulaire à chaque fois depuis le début de saison, même en Coupe de même en Europa League. Et là, c'est incompréhensible qu'il ne le mette pas titulaire, sachant que à sa place il y avait Aubameyang, qui lui est un attaquant, donc en fait c'était pas forcément pour dire qu'il voulait faire une équipe un peu plus défensive face à Marseille, puisque Aubameyang à la base est un avant-centre. Donc Hazard, quand il est rentré avec Gervinho, les Lillois allaient beaucoup plus vite, ils se projetaient beaucoup plus vers l'avant, c'était beaucoup plus précis quand ils approchaient des 30 mètres marseillais. Franchement c'est incompréhensible ce qu'a fait Rudy Garcia, et là on peut se dire que Lille finalement, même si Marseille a largement dominé le match malgré tout, Lille peut avoir quand même pas mal de regrets. Parce que s'ils avaient aligné la vraie équipe, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose. On l'a vu sur la fin, on a même vu une occasion avec Cabaye. Maintenant, je pense que le Tulio Demelo est très décevant pour l'instant. À la limite, j'aurais préféré voir même Vitek, qui est beaucoup plus complémentaire avec les autres attaquants lillois. Demelo n'a rien fait alors qu'on attend beaucoup de choses de lui vu ce qu'il a fait au Mans quand il était en France il y a deux saisons. Maintenant, Marseille a très bien joué, a bien joué le coup, a maîtrisé. C'était solide. Derrière, Diawara et Enzo ont fait un très bon match. Caboré, c'est quand même le maillon faible de cette équipe. Merci. Parce que bon, faut dire ce qui est, même si offensivement parfois il apporte, bon, ses centres, c'est pas non plus des merveilles, et en plus défensivement, il laisse beaucoup trop de joueurs passer dans son dos, et à chaque fois que Lille avait une occasion, notamment sur l'occasion de Cabaye, c'est lui qui fait l'erreur de laisser Cabaye dans son dos, et à chaque fois que Lille pouvait accélérer, c'était toujours sur son côté. Donc vivement le retour de Bonnard ou de Bocali, parce que ça va changer beaucoup de choses, et justement ça va permettre à Ben Arfa de ne pas non plus jouer à contre nature, et de ne pas trop défendre, et de ne pas trop revenir sur son côté, sachant que Bonnard, par exemple, réussit très bien tout seul le travail défensif sur le couloir droit. Maintenant, je pense que Marseille a bien joué le coup. Concernant l'arbitrage, il faut aussi noter que Marseille aurait dû avoir un pénalty sur le contact entre Rami et Niang, et Rami accroche Niang puis tombe par terre et prend le ballon de la main dans la surface. Ça me fait penser au pénalty de Monaco, je crois, de Nancy contre Monaco, où Pesley
de Rennes à Nice, oui, exactement.
Pesley, oui, de Rennes à Nice, voilà. Oui, de Rennes à Nice, Pesley tombe, il prend le ballon de la main, il y a penalty. Là, c'était exactement la même situation, il n'y a pas eu penalty. Donc finalement, au niveau des erreurs d'arbitrage, c'est assez équivalent, et un partout, la balle au centre.
Enfin, mis à part
ouais, Rami, juste
pour ça, revenir sur... pas siper, moi, ça me choque pas personnellement.
Ouais, ouais. Mais juste pour revenir sur Rami, c'est vraiment le grand ami de Brandao parce qu'il se met des coups, mais un truc de fou. À un moment, Brandao part en contre et Rami est sur le côté droit. Et je sais pas, il y a un accrochage.
Il le balaye, oui.
Et voilà, il le balaye, quoi. Pour moi, il y avait un carton sur l'affaire, quoi. Et Rami avec Brandao, à chaque fois, il se ruine, quoi. Déjà, je me rappelle au match, le match Lille-Marseille l'année dernière, là. Brandao et Rami, c'était déjà un truc, c'était limite violent, quoi. Donc bon, Rami, faudrait qu'il respire un peu, quoi. Même si Brandao, c'est vrai qu'il joue des coudes et tout, mais bon, voilà, Rami, faut qu'il se calme un peu, quoi. Je sais qu'il est déçu de pas être venu à Marseille, mais bon, ça n'explique pas tout, quand même.
Oui, oui. D'ailleurs, à un moment, pendant le match, il y avait une scène assez drôle, c'est qu'il y a Rami, il me semble, il parlait à Enzo, et moi, on aurait pu imaginer que Rami lui dit, normalement, c'est moi qui dois être à ta place, là. Mais bon, bref, voilà, on s'en fout. Rami, il doit bien l'avoir mauvaise. Et bah nous on a bien parlé de Marseille hein, rien d'autre à ajouter. Non
ça m'en vient pas.
Il me semble qu'il y a eu Hugo qui est Brandao, vas-y lâche-toi.
Bah non, moi je le trouvais juste un peu limité, surtout au niveau de la finition, contre Grenoble. Il a fait deux têtes qui étaient assez belles, mais trop belles, et bon voilà, je sais pas si Marseille se satisfait d'avoir Brandao en pointe en tant que
titulaire.
Mais j'avais vu une interview de Morientes dans un journal et il avait dit qu'il voulait être titulaire.
Donc, ah mais Morientes, il a rien à dire. Morientes, il est pas prêt pour l'instant, donc il va se calmer un peu.
Ouais, il a dit quand il sera prêt, il voudra être titulaire. Et quand il est pas prêt, il dira à Deschamps de ne pas le faire jouer.
Ouais, donc, c'est l'interview de France Foot. Ouais, j'ai lu aussi.
Ouais. Non mais je me demandais s'il peut avoir, une petite crise entre les deux attaquants, tu vois. Parce que Brandao, il est venu à Marseille, à mon avis, c'est pour jouer.
Oui. Ben moi, je pense que il y aura peut-être des problèmes, mais on n'en saura pas plus, quoi. Je pense que Brandao, il va pas trop la ramener. Bon, Deschamps, il connaît bien Morientes, donc bon, il fera passer la pilule. Par contre, le petit problème qu'il peut avoir, c'est Hilton. Alors Hilton, voilà, un joueur que voilà quoi. L'escroquerie, quoi. Voilà, le mec, c'est le mec. Hein. Et apparemment, il est pas trop content.
D'ailleurs, on salue Fanoem.
Voilà, non, mais c'était pas forcément lui, mais il y en a beaucoup qui trouvent qu'Hilton était un bon défenseur. Moi, bon, je trouve pas, bon, chacun ses goûts, hein, c'est pas, hein. Mais il était, il était pas sur la feuille de match. Parce que bon, voilà, il y a un nombre limité, donc il était en tribune. Et quelqu'un a posé la question, vous êtes blessé, vous êtes pas remis de votre blessure et tout. Il a dit non, 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 je suis prêt, je suis fit. Mais il faut demander à l'entraîneur pourquoi il m'a pas mis sur la feuille de match. Donc lui, apparemment, il risque de casser les couilles, quoi. D'un autre côté, vu le salaire qu'il touche, il touchera pas ça ailleurs, sauf dans le golf ou au Qatar ou je sais pas où. Mais je pense que dans un club français ou club européen, il touchera pas autant. Donc vu son âge et tout, je pense qu'il restera, ça fera un lofter ou. Enfin moi, j'espère qu'il aura un bon état d'esprit, qu'il foutra pas la merde, parce que vu la défense qu'on a, les deux sauvages qu'on a, qui va sûrement expulser régulièrement à cause de deux cartons jaunes ou même expulsion en sèche, quoi. Donc il faut que Hilton soit là dans un bon état d'esprit. Donc j'espère que c'est pas lui qui foutra la merde. Donc c'est juste mon interprétation par rapport à ça.
Avec Asbara Saint-Etienne, je suis sûr qu'il vous prendra. Ils ont besoin d'un défenseur, c'est faisable, il peut se faire prêter, pour moi. Voilà, moi c'est ma proposition à Saint-Etienne, choper Hilton.
Ouais.
En échange de paillettes, on est ok, ouais. Ouais.
Ah oui, on reconnaît le monégasque qui a besoin d'un avant-centre. Enfin voilà.
Bref. La situation avec Bakar est en train de dégénérer, hein.
C'est intenable. Et donc, bah voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre. Ah, question. Il y a une réaction du forum. Je n'ai pas pu lancer le jingle, on s'en fout. C'est Tougo qui nous dit, ça va faire cliché ce que je vais dire, mais peut-être que Rudy Garcia, au vu de la chaleur écrasante, s'est dit qu'il fallait faire rentrer Hazard à un moment du match où les joueurs à vocation défensive de l'OM allaient être moins vifs.
Ouais, c'est pas bête. Et d'un autre côté aussi, Aubameyang, même si à la base c'est pas un joueur de côté, peut-être que physiquement il tient plus le coup, et au niveau des replacements peut-être, ou gêner la relance, ou gêner plutôt les Marseillais, peut-être qu'il est plus physique et plus apte à faire ça que par rapport à Hazard, qui en plus apparemment a pas mal joué cet été, a fait des matchs avec les jeunes en Belgique, ou je sais pas, peut-être à court. Et c'est vrai que bon, un jeune joueur, il faut pas le cramer. Donc et c'est vrai que ce que dit Tuco n'est pas faux, c'est que voilà, il rentre et il dynamite un peu tout le bordel, quoi. Et lorsque Gervinho et lui sont rentrés, c'est vrai qu'ils nous ont mis la misère, faut dire ce qui est. Donc voilà, c'est peut-être il a peut-être pas tort.
Ouais. Donc voilà, merci pour cette petite réaction, Tuco. On conclut le chapitre de la Ligue 1 sur ça. Oui, on n'a pas fini, on finit, désolé Dan, mais on finit juste, on va parler de Lyon, ça va te faire plaisir en plus. De Lyon qui bat dans deux jours, faut en parler hein, quand même. C'est important, dans deux jours, Lyon reçoit Anderlecht. Vous êtes très réceptif, très très attentif.
Anderlecht.
Lyon recevra Anderlecht mercredi soir, match qui comptera pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Tandis qu'Anderlecht s'est imposé 3-0 contre Westerlo ce week-end, Lyon est venu à bout de Valenciennes 1-0. On sait d'ores et déjà que Govou et Claire seront forfaits pour la rencontre. À noter que Claude Puel a déjà joué Anderlecht. C'était avec Lille en 2006-2007. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, lors de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et Lille avait fait match nul un partout et match nul deux partout. Voilà. Donc, est-ce que Lyon doit avoir peur d'Anderlecht ?
Non.
D'accord. Déjà, oui. Bordeaux arrivé à Bordeaux arrivait à les tenir avec du casse.
Non, attends. Mais arrête, tu vas pas donner ce type d'argument, c'est bidon. C'est Bordeaux, bon, les
on peut déconner ou pas ? On peut déconner ou pas, connard ?
Non, mais
Bordeaux. Oh non, pas d'insultes, merde, c'est familial ici. Oh.
après, les auditeurs vont avoir peur. Non, mais je veux dire que moi, je n'irai pas jusqu'à dire que Lyon doit avoir peur d'Anderlecht, mais faut pas non plus prendre le match à la légère. Bah, Anderlecht, c'est une belle petite équipe, mais sur le papier, Lyon doit faire le boulot et gagner. Il y a des beaux petits joueurs, Boussoufa,
bon Argentin, il y a Suarez,
De Char, il y a Lucas Biglia d'ailleurs. Il y a Frutos, De Char, Boussoufa, Vandamme, voilà, il y a des bons joueurs et faut pas non plus les prendre à légère. D'ailleurs, on parle de Lyon et la Ligue des Champions demain. Un article sur Va te faire foot sur Lyon, Va te faire foot.com, un article de l'homme sans prénom. Voilà. Donc, restez Restez sur vos, restez, voilà. Il se fait tard, j'ai un peu de mal. Restez à l'écoute. Enfin, non, c'est pas à l'écoute.
Restez sur vos gardes.
Voilà, sur vos claviers. Voilà, restez nos lives. Voilà. Attentif. Donc voilà, vas-y, Marpi, tu viens, tu voles à mon secours.
Ouais, donc pour Lyon, bon, normalement, ça devrait passer face à Anderlecht. Maintenant, le match retour est en Belgique, donc il va falloir faire quand même attention à ce que mercredi, Lyon ne fasse pas un vieux 0-0 tout pourri pour finalement se faire piéger au match retour dans les prolongations sur un but de la main, quoi. Donc, c'est le genre de choses qui arrive souvent et qui peut te niquer une saison. Maintenant, on en parlait justement avec Touko sur le forum. Sur le plan sportif, alors après je parle pas sur le plan financier parce qu'une qualification pour les phases de groupe de la Ligue des Champions apporte quand même pas mal d'argent, mais sur le plan sportif, un reversement en Europa League serait pas forcément une mauvaise affaire. Si Puel et Lyon jouent le coup à fond en Europa League, Lyon peut très facilement, enfin c'est relativement comme peut quand même aller assez loin en Europa League et pourquoi pas la gagner, sachant que quand on regarde le dernier carré de la saison dernière en Europa League, on avait le Shakhtar, le Dynamo Kiev, Hambourg et le Werder. Donc à part le Werder à la limite, je pense que Lyon est quand même supérieur à ces équipes. Donc avec un palmarès qui est assez pauvre en Europe, si ce n'est inexistant. Dernièrement, Lyon galère pas mal en Ligue des Champions et n'arrive pas à dépasser les huitièmes de finale. Donc, pourquoi pas faire un gros coup en Europa League, au moins aller en finale et pourquoi pas gagner cette coupe, ce qui ferait déjà sur le plan médiatique un bon coup et au niveau du palmarès apporter déjà un trophée européen qui manque d'une part à la France et en plus à Lyon, et ce serait vraiment tout bénef pour Lyon. Après, c'est sûr que sur le plan financier, être éliminé dès le tour préliminaire de la Ligue des Champions, tu perds quand même pas mal d'argent.
Non, mais c'est clair, mais moi je pense que voilà, ça passera, quoi. Bien sûr, mais Lyon, de toute façon, ils prendront pas ce match par-dessus la jambe parce qu'ils sont habitués au match de Coupe d'Europe. Donc voilà, bien sûr, ils vont pas y aller en tongs, en short avec la CFA, c'est sûr. Mais je pense qu'ils feront le travail, ils seront appliqués, ils passeront, et voilà. Moi, je m'inquiète pas du tout par rapport à ça, quoi.
Voilà, d'accord.
D'accord, bah, contre Lille, joue.
Moi, je m'inquiète quand même, je m'inquiète pas un peu. Parce que bon, Anderlecht, ils ont, tu vois, Anderlecht, ils gagnent des bons joueurs devant, tu vois, ils ont Boussoufa, ils ont Frutos et tout. Et la défense de Lyon, elle est quand même assez inquiétante, quoi. Chris Bodmer, c'est Sissoko et à droite, plus c'est qui, Réveillère ou Claire.
Ça sera Réveillère, puisque Claire a déclaré forfait.
Bah Réveillère. C'est pas encore.
Et Gouvou également, c'est important parce que ça va sûrement être Ederson sur la droite et il faudra surveiller ça parce que. Attention, enfin, voilà. Parce que c'est. Ederson, on sait que c'est pas un ailier de métier. Voilà. Bon, c'est juste pour l'info. Et d'ailleurs, excuse-moi de te couper, Hugo, mais il y a The Flow qui nous demande si. Est-ce que vous avez vu le but de l'attaquant d'Anderlecht ce week-end de Suarez?
À part que c'est une frappe de 30 mètres.
Oui, enfin, oui, c'est un but pleine lucarne, sûrement hein, le but du week-end. Voilà.
Moi j'ai vu le but de Boussoufa, mais pas celui-là.
Voilà. Justement, Boussoufa qui va jouer contre Lyon avec Anderlecht. Donc vas-y, Hugo.
Bah, je disais que la défense de Lyon, elle était pas très rassurante. Tu prends deux buts contre Le Mans, tu galères, tu marques à la dernière minute, tu reprends avec un gardien mal placé. Tu gagnes 15-0 contre Valenciennes, c'est pas top. Mais derrière, t'auras une défense en Anderlecht, de ce que j'ai pu voir, c'est une défense qui est relativement mauvaise aussi. Donc, on pourra s'attendre à une rencontre avec des buts quand même.
Oui, mais comme tu le dis, il faudra faire attention à la défense lyonnaise, surtout qu'il y a des bons offensifs, hein, Anderlecht, Suarez, Boussoufa, et faudra surveiller ça. Mais sur le papier, normalement, Lyon n'a pas le droit de perdre, mais il faut pas non plus venir au match les mains dans les poches, quoi. D'ailleurs, On a une réaction sur de Scap sur le forum qui nous dit ouais, enfin avant d'aller en finale, il y a pas mal de matchs à jouer en Europa League. Certes, c'est à la portée de Lyon, mais faut pas y aller les mains dans les poches aussi. Les matchs pièges existent aussi. Enfin bref, je ne pense pas que ça peut être si facile que ça pour Lyon, même si c'est l'équipe française qui semble la plus apte à faire le meilleur parcours dans cette compétition.
Bien voilà. Sûr, ce sera long, compliqué, mais je veux dire, Lyon sait très bien qu'ils joueront ça sérieusement, à fond, et même là, je préfère gagner une C3 plutôt que de faire un autre huitième ou même un quart de C1, quoi. Donc, Lyon, s'ils y vont, ils joueront ça à fond, et il n'y aura aucun problème.
Hein. Moi, personnellement,
même, ils préfèrent quand même aller en C1 pour l'aspect financier, quoi, je pense. Hein.
Moi, personnellement, je vois Lyon gagner facilement, mais super facilement, quoi, sans problème. Je vois match aller 2-0, match retour 1-0. Et vraiment sans avoir été inquiété, puis vous pouvez me reprendre si j'ai tort, mais voilà, moi je vois vraiment pas comment Anderlecht peut espérer gagner ce match même. Peut espérer gagner un des matchs, voire faire un match nul. Vraiment je vois Lyon vraiment beaucoup plus supérieur qu'Anderlecht.
Mais c'est sur deux matchs, hein.
Sur deux matchs, c'est ce que j'ai dit.
Donc bah un match nul à Gerland, ça serait un bon résultat pour Anderlecht.
Ouais, mais c'est ce que j'ai dit, je vois vraiment pas comment Anderlecht peut aller faire un résultat soit à Lyon, soit à Anderlecht. Donc
d'accord. Et ben voilà.
Pour moi, ce sera facile pour Lyon.
D'accord. Ah d'accord, bah merci à tous. Hein.
Juste un truc.
Ah bah vas-y, excuse-moi.
Ouais, Lille joue Genk, un autre club belge en tour préliminaire de C3. Donc vu la dynamique des Lillois, faudra pas déconner quoi.
Eh ben merci à tous. Hein. On a bien parlé, hein, deux heures d'émission quasiment. Il y en a qui font pas être contents. Voilà, donc la spéciale Ligue 1, c'est fini. Prochain rendez-vous sur Génération Soccers, vendredi sûrement une Europe des Soccers, le retour de l'Europe des Soccers avec. Ils vont parler de tous les championnats européens. Il y a le retour de l'Espagne, il me semble.
Non, la Serie A.
La Serie A, voilà, c'est ça, le retour de la Serie A. Donc, il y aura sûrement une Europe de Soccer ce vendredi. Restez à l'écoute. Sinon, c'est samedi, le débat after Ligue 1, ou peut-être mercredi après le match du Lyonnais.
Comment ça, tu as écrit?
Comment?
Tu veux pas?
Pourquoi?
enchaîne, vas-y.
Alors que Edouard nous fait une arnaud. Voilà, donc on va pouvoir clôturer l'émission sur ça. Salut à tous et restez à l'écoute de Génération Soccer.
Salut.
Ciao.
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 Bonne année.